Il est 7h.
J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite.
La France reconfinée dès ce soir minuit, une mesure radicale pour sauver Noël, mais qui sera plus souple qu'au printemps dernier. Les écoles, les collèges et les lycées vont rester ouverts. Les visites seront autorisées dans les EHPAD. Tous reconfinés donc jusqu'au 1er décembre au moins, mais selon les informations d'Europe 1, l'Élysée envisage de prolonger la mesure jusqu'à Noël, voire même jusqu'à la fin janvier. Et qui dit reconfinement dit retour des attestations de déplacement. Il y en a 3 cette fois, les détails de Guillaume Bié dans ce journal. Et puis beaucoup de bouchons hier soir en Ile-de-France, 335 km, c'est 2 fois plus qu'à la normale. Beaucoup sont partis se mettre au vert, notamment à la campagne, dans la Manche, où les ventes de maisons explosent.
Juste après ce journal, 2,5 points de PIB par semaine, le coût du confinement, l'économie française va-t-elle le supporter? C'est l'éclairage éco de Daniel Fortin. La France, leader européen du reconfinement, le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire, vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France se reconfine dès ce soir minuit. Désormais, les sorties seront uniquement autorisées pour aller travailler, se rendre à un rendez-vous médical, faire ses courses ou encore prendre l'air à proximité du domicile. Les bars et les restaurants vont devoir à nouveau baisser le rideau, tout comme les commerces non essentiels. Pour Emmanuel Macron, il y avait urgence.
Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année.
On l'a entendu, c'est l'objectif. Je vous le disais, objectif éventuellement sauver Noël. Le président de la République donne pour l'instant la date du 1er décembre.
Mais bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Alors d'après vos informations, ce reconfinement pourrait bien être plus long.
Oui, Emmanuel Macron n'a pas du tout tout dit hier. Il n'a pas du tout insisté sur le caractère reconductible des 4 semaines de confinement. En réalité, à l'Élysée, on planche sur un autre calendrier. Ce nouveau confinement pourrait durer entre 8 et 12 semaines. Autrement dit, jusqu'à Noël et même dans le pire des cas, jusqu'à la fin du mois de janvier.
Ce sont vos informations, Louis. Mais alors pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne l'a pas dit explicitement?
Eh bien, pour 2 raisons. D'abord parce que l'exécutif espère un miracle, à savoir une forte baisse de la propagation du virus d'ici le début du mois de décembre. Ce n'est pas impossible sur le plan épidémiologique, même si cette perspective est jugée très improbable par le Conseil scientifique. Et puis l'autre raison, c'est que 2 à 3 mois de reconfinement, c'est un message impossible à faire passer aujourd'hui dans l'opinion. Et ça, le chef de l'État le sait. Il est même obsédé par la question de l'acceptation sociale de ces mesures. Emmanuel Macron l'a répété hier soir. Il s'agit de lutter ensemble contre l'épidémie, d'être unis face au virus. Et cette unité serait impossible à tenir si l'effort réclamé aux Français leur semblait insupportable.
Louis Dragnel, je retiens un miracle, la forte baisse de la propagation du virus d'ici le début du mois de décembre, le miracle de Noël. Donc beaucoup de symboles ce matin et un autre symbole. On va retrouver la fameuse attestation de déplacement. Impossible de sortir sans demain, sous peine de recevoir une amende de 135 euros.
L'attestation sera soit à télécharger sur Internet, soit à rédiger sur papier libre, comme au printemps dernier, avec toutefois une nouveauté, Guillaume Bié.
Oui, d'après nos informations, il y aura 3 types de formulaires. L'attestation de déplacement dérogatoire, la même qu'au premier confinement, valable 1 heure, pour des motifs bien précis, faire des courses, aller chez le médecin ou faire du sport, seul, maximum à 1 km de chez soi. 2e attestation, celle pour les déplacements professionnels avec justificatif de l'employeur. Et la nouveauté, donc un 3e formulaire pour les trajets scolaires valables dans la durée pour pouvoir accompagner ou récupérer ses enfants à l'école. Puisque les crèches, écoles primaires, collèges et lycées resteront ouverts, tout comme les services publics et les commerces indispensables, supermarchés, pharmacies, pressing, comme au printemps. Mais pour s'y rendre, donc, attestation obligatoire dès ce soir minuit, sous peine d'amende, toujours 135 euros et bien plus en cas de récidive. Mais sur le terrain, les forces de l'ordre seront bienveillantes jusqu'au week-end prochain. Tolérance, a dit le président hier soir, puisque les vacances de la Toussaint ne sont pas terminées et qu'il y a encore ces jours-ci pas mal de déplacements familiaux.
Et justement, la SNCF a annoncé hier soir que tous les trains circuleront comme prévu jusqu'à dimanche pour faciliter les retours de vacances.
Ce confinement, en tout cas, sera plus souple qu'au printemps dernier. L'activité économique économique doit pouvoir continuer.
Et les guichets des services publics resteront donc ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et les entreprises de travaux publics continueront de fonctionner. Et pour que tout le monde puisse aller travailler, les écoles et les collèges resteront ouverts, les lycées aussi. Et ça, c'est une surprise. Le protocole sanitaire sera toutefois renforcé. On saura comment dans la journée avec la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. À quoi peut-on s'attendre, Virginie Salmen ?
Eh bien, le challenge, c'est d'éviter que les groupes de lycéens se croisent. Le matin à l'entrée, dans les couloirs entre les cours ou bien à la cantine. Difficile aussi d'imaginer conserver des classes à 35 ou 40 élèves. D'ailleurs, pour certains syndicats d'enseignants comme le SNALC, le retour de 100% des élèves, même avec des masques, ce serait un point de blocage. Jean-Rémy Girard.
Les masques, les élèves les portent, sauf quand ils ne les portent pas, c'est-à-dire quand ils sortent fumer, au self, dans les couloirs quand il n'y a personne qui est en train de les surveiller. On a quand même des difficultés majeure hein, pour faire respecter le protocole sanitaire partout, tout le temps. Et puis il y a des endroits où, de toute façon, le protocole sanitaire, c'est à peu près rien. C'est se laver les mains et encore, on n'est pas sûr qu'ils l'ont fait.
Le schéma privilégié par le ministère de l'Éducation nationale, c'est de faire venir les élèves un jour sur deux de façon à diviser les effectifs des classes par deux. Et pour les élèves qui ne pourraient pas rester chez eux la moitié du temps, les syndicats demandent l'ouverture de salles municipales ou de gymnases équipés de matériel informatique pour leur permettre de suivre les cours à distance.
Virginie Salmen pour Europe 1. À noter que pour les universités, les cours en ligne seront privilégiés.
Je me pose une question ce matin. Je sais que ça ne concerne pas non plus toute la France. On fait quoi des prépas ? Dans les prépas, on a un statut de lycéen, mais on est déjà en études post-bac. Je vais poser la question à mon invité à 7h40 tout à l'heure. C'est Bruno Bobkiewicz. Il est proviseur d'un groupe scolaire de 1900 élèves. Le tête-à-tête Europe matin à 7h40. Après Emmanuel Macron hier soir, c'est Jean Castex qui va prendre la parole à 18h30.
Le Premier ministre va détailler les mesures sanitaires prises par le gouvernement, des mesures débattues et votées ce matin et cet après-midi par les députés et les sénateurs. En parallèle, le chef de l'État participera lui à un conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union européenne.
Comme au printemps dernier dans les magasins d'alimentation, ce deuxième confinement va être synonyme de surchauffe.
Les hôtesses de caisse se préparent, non sans appréhension. Nathalie Chevance en a rencontré deux hier soir, juste après l'intervention d'Emmanuel Macron.
Un marathon jusqu'à Noël, voilà à quoi s'attend Martine, employée dans une supérette qui a déjà vécu au travail le premier confinement, toujours sur les nerfs.
La fatigue surtout, j'appréhende parce qu'on est déjà crevé et qu'on n'a pas eu trop de vacances non plus. Donc parce qu'on fait des heures de folie quoi, hein, à remplir les rayons tout le temps. Donc beaucoup de monde qui achète tout et n'importe quoi. Les livraisons c'est énorme, c'est épuisant, on n'est pas assez quoi.
Car si au printemps dernier le directeur du magasin a embauché du personnel supplémentaire, 30% d'effectifs en plus, rien n'est acquis pour ce deuxième confinement. Mais Sophie, hôtesse de caisse, temporise.
Au niveau protection, on est équipé, tout ça, il n'y a pas de souci. Oui, on se sent plus en sécurité. Comme je dis, après, ben, c'est vrai qu'il ne faut pas se plaindre non plus, on a un travail. Et il y en a d'autres qui ne vont plus en avoir, donc voilà, c'est une grande chose. On a eu une prime effectivement pour le premier confinement, et là, ben, je ne sais pas du tout comment ça va se passer quoi. Mais il y a du boulot.
Avec déjà pour la seule journée d'hier 40% de chiffre d'affaires en plus dans cette supérette de quartier. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
En France, les commerces non essentiels resteront fermés. Pas de dérogation, sauf pour les fleuristes qui vont pouvoir rester ouverts.
Jusqu'à dimanche seulement, jour de la Toussaint. Après, ils devraient être fermés. 2000 fleuristes ont déjà mis la clé sous la porte après la première vague et le secteur craint autant de fermetures avec la deuxième. Et même si la profession a obtenu une dérogation pour la Toussaint, les prochaines semaines s'annoncent critiques à l'approche de Noël. Franck Poncet est président du directoire d'Emova Group, le premier réseau de vente de fleurs en France et en Europe.
Est-ce qu'on va priver l'ensemble des Français d'avoir un sapin à Noël? Ce serait juste incroyable. Les sapins à Noël pèsent 30% du business du mois de décembre, qui est un des mois les plus forts. Les sapins, accessoirement, ils viennent de France, ils ont été coupés, on a commencé à les réserver et à les commander, et moi je vais expliquer à mon fournisseur du Morvan que finalement je ne prends plus les sapins. Ça serait un truc exceptionnel, quoi. Peut-être que des supermarchés ou des hypermarchés vont vendre des sapins. Mais alors là, on est sur deux points. La liberté du commerce et l'équité du traitement entre les commerçants. C'est pas possible. Il n'y a aucune raison que les fleuristes ne puissent pas sortir leurs étals sur le trottoir, donc en plein air, et faire de la vente à l'extérieur. Donc c'est typiquement une option qu'on va proposer.
Des propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois.
7h10 sur Europe 1. Avant d'être confinés, certains ont choisi, comme au printemps, de partir se mettre au vert. Et ça, dès hier.
Et la preuve avec ce record de bouchons en Île-de-France, plus de 335 km d'embouteillage ont été enregistrés avant 17h. C'est deux fois plus que la normale. Quitter la capitale pour quelques jours ou plus, la peur du reconfinement avait déjà boosté le marché immobilier d'une façon inédite dans certaines régions. Les maisons s'arrachent à des prix rarement atteints. Exemple à Granville, au bord de la mer, dans le département de la Manche. Depuis quelques semaines, les biens immobiliers n'y font pas long feu et se vendent 10 à 15 fois plus cher que la moyenne enregistrée avant le Covid, François Coulon.
Granville, 13 000 habitants, était plutôt paisible avant le Covid. Vendre sa maison prenait habituellement 3 bons mois. Depuis le confinement et avant le prochain, il suffit parfois de quelques heures. Patrick Royer, agence Century 21.
On n'a jamais connu ça. Les gens se précipitent. Ça vient de partout. Les zones rouges, le couvre-feu, tout ça, ça a un gros impact. Les gens sont inquiets. On se dit, Granville, c'est la campagne, la mer et la proximité de Paris avec la perspective de télétravailler.
Cabinet Folio Anne-Marie, bonjour.
Le téléphone n'arrête pas de sonner à l'agence Folio, Nicolas Bisson.
Les gens s'attendent à être confinés. Il y a une recherche qui est très active aujourd'hui. On n'a jamais eu de stock aussi faible que ça. Il y a des biens qui se vendent en moins de 24 heures. On a des gens qui nous ont acheté des maisons avec un système de visio sans y être allé. C'est vraiment la vraie envie de venir vivre à la campagne et quitter les grandes villes. On ne peut plus aller au bar, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller dans les cinémas ni au théâtre. Donc quel intérêt aujourd'hui d'être dans une grande ville? Autant se retrouver en campagne où on va voir ici la mer par exemple.
Un quart des acheteurs sont des télétravailleurs qui contribuent à une réelle inflation, 10 à 15% de hausse de prix en quelques mois. Granville, François Coulon, Europe.
Évidemment, beaucoup d'entre vous se sont souvenus du mois de mars, du mois d'avril, hier soir, après avoir écouté Emmanuel Macron. Cette question qui se pose ce matin, comment profiter autant que possible, au mieux, de ce reconfinement? Au printemps dernier, beaucoup s'étaient remis au sport ou à la cuisine.
Et ce confinement, c'est peut-être l'occasion de mieux manger. Avec des rythmes moins réguliers, nos habitudes alimentaires risquent d'être perturbées. Et Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste santé d'Europe 1. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils de nutrition pour limiter la casse?
Alors c'est vrai qu'il va falloir essayer de ne pas être trop déboussolé, et ça peut paraître enfantin, mais essayez dans ces cas-là de préparer vos repas à l'avance, de savoir ce que vous allez manger dans la semaine pour justement faire vos courses en fonction de ça et pas l'inverse. Essayez de garder les mêmes rythmes, c'est-à-dire de petit déjeuner, de déjeuner, de dîner aux mêmes heures, car vous avez cette horloge biologique qui n'aime pas être décalée. Et le soir en particulier, comme on s'ennuie, on aura tendance à manger un peu plus tard, chose que je vous déconseille vu que le sommeil sera plus difficile et l'endormissement de moins bonne qualité. Et puis, si jamais vous avez des fringales, vous avez envie de sucrer en permanence, ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite cure de chrome que vous achetez à la pharmacie. Vous prenez une petite ampoule. Si jamais vous êtes plutôt du soir vers 19h, vous avez cette faim, eh bien prenez l'ampoule vers 16h, ça permettra de limiter la casse. Et puis, vous avez le droit, de temps en temps, un peu de plaisir, un petit carré de chocolat. Tiens Mathieu, je sais que vous aimez ça. 30
c'est Milidès qui vous a posé la question, Jimmy.
Oui,
arrêtez
je sais
de me regarder
vous
pour
êtes
ceux
un
qui
gourmand Mathieu. Et d'ailleurs, attention, c'est un carré de chocolat, 30 grammes, c'est riche en antioxydants et ça procure des molécules proches de la dopamine pour le bien-être, car il faut malgré tout se faire plaisir pendant cette période.
Les conseils de Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe.
Un carré, ça va. C'est ce que je retiendrai. Merci Jimmy, on va vous retrouver dans nos journaux ce matin pour accompagner les Français. C'est finalement ça aussi l'enjeu d'Europe 1. J'ai envie de dire, le confinement, on connaît maintenant. Ça y est, on a vécu ça tous ensemble. C'était la première fois, c'était choquant. Maintenant, on va voir ce qu'on a appris du printemps dernier, justement. Il est 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le Premier ministre, 18h30, le détail de ce qu'a annoncé le Président hier. Jean Castex, attendu par beaucoup d'entre vous. Faut bien dire que le confinement démarrera quelques heures après seulement. Et d'ici là, faut bien que vous imaginiez les discussions pied à pied, secteur par secteur. Est-ce qu'il y a encore une marge de négociation d'ailleurs? À 8h15 ce matin, c'est la grande question. Comment notre économie va tenir? Peut-elle supporter ce nouveau confinement? Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF, invité de la matinale d'Europe 1. Tout de suite, l'éclairage éco, Daniel Fortin. La différence avec le mois de mars, c'est que notre économie est déjà chancelante. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h15.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Nous sommes avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le reconfinement annoncé hier par Emmanuel Macron s'annonce comme un deuxième choc massif après la première vague de mars dernier. La question ce matin est très simple. L'économie française peut-elle résister?
Alors la réponse est oui Mathieu, même si ce sera très dur bien sûr dans beaucoup de secteurs. Mais les économistes sont à peu près tous d'accord. En fait, ce nouveau électrochoc sera beaucoup moins fort que celui du printemps dernier. Pourquoi ? Eh bien parce que cette fois, la production ne va pas s'arrêter dans le pays comme ça avait été le cas pendant le confinement du printemps. Les gens vont continuer à aller travailler ou à travailler de chez eux. Donc la perte de croissance sera moins forte au printemps. Chaque mois de confinement avait coûté environ 60 milliards d'euros au PIB. Cette fois, ce sera beaucoup moins.
Oui, on parle de 12 à 15 milliards. À 8h15, Geoffroy Roux-de-Bézieux ce matin sur Europe 1, le patron du MEDEF, qui parlait en début de semaine d'un risque d'écroulement de l'économie française. À vous écouter, on peut se dire qu'il a exagéré ?
Alors, il vous répondra, mais enfin, pas tout à fait quand même, parce que si ce choc est moins dur, le problème est qu'il frappe en effet une économie très affaiblie. Les entreprises ne gagnent plus d'argent, elles sont très endettées, beaucoup de commerces sont déjà à l'agonie, 800 000 emplois ont été détruits. C'est ce contexte qui rend fébrile les chefs d'entreprise et on les comprend. Si on prend un seul exemple, celui du tourisme, il a perdu près de 70 milliards d'euros lors du premier choc, soit plus du tiers de son activité annuelle. Aujourd'hui, les taux d'occupation des restaurants ou des hôtels sont tombés à 44%. Et le nouveau tour de vis annoncé hier soir ne va évidemment rien arranger.
Mais après le premier confinement, on a vu une reprise rapide de l'économie. Ça ne peut pas se reproduire cette fois.
Alors c'est l'espoir, bien sûr. Durant l'été, la croissance est en effet repartie très fort grâce à la consommation des ménages qui avait retrouvé son niveau d'avant Covid-19. Mais cette fois, les experts ne croient pas à la reproduction de ce scénario. Début octobre, l'INSEE pointait déjà un risque de rechute de l'économie. La raison, c'est que la méfiance des ménages et des entreprises est plus grande face à une pandémie dont on ne voit pas la fin. Donc les premiers épargnent au lieu de consommer, les secondes cessent d'investir. Résultat, même si l'épidémie ralentit à la suite des mesures annoncées hier, la reprise de l'activité risque cette fois d'être beaucoup plus lente.
Merci Daniel Fortin, 7h17. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous.
Aussi. Oui, j'ai cru qu'il n'y en avait que pour ces dames ce matin.
Oui, bonjour ma femme.
Tous les pays d'Europe affrontent, Vincent, la deuxième vague. Mais les Français se distinguent en se reconfinant.
Alors les Irlandais et les Gallois ont franchi le pas la semaine dernière, mais sont des poids plumes, 5 et 3 millions d'habitants et il manque d'hôpitaux. La France est donc bien le premier grand pays européen à se remettre en panne. L'Allemagne n'en a pas fait autant hier. La chancelière a négocié longtemps avec les grands féodaux qui règnent sur les Länder et qui veillent sur les comptes. Mais il n'y a que les bars, les restaurants, les lieux de loisirs qui baissent le rideau de fer. Et encore, seulement la semaine prochaine. Quel dommage ! Donner un coup de frein ensemble aurait montré au monde que le couple franco-allemand marche d'un même pas, même quand il se met à l'arrêt. Et puis, ça aurait fait tellement plaisir à Ursula von der Leyen.
La présidente de la Commission européenne a lancé un appel aux dirigeants européens.
Alors, elle a rendez-vous avec eux tout à l'heure. Il y a un Conseil européen, c'est-à-dire une de ces visioconférences qui renforce l'irréalité dans laquelle baigne l'activité européenne depuis 6 mois. La santé publique échappe évidemment encore à la Commission européenne. Mais dans une vie antérieure, la présidente a été médecin. Alors, elle a mis hier une sorte de blouse imaginaire. Son diagnostic est sévère. Les pays européens ont échoué. Ils se sont mal préparés à la deuxième vague. Ils ont négligé les experts. Ils ont relâché leurs efforts. Sa prescription, c'est qu'il y a urgence à se concerter pour les tests, le confinement, la distribution des vaccins le jour venu, ou plutôt en avril, et il faudra au moins 700 millions. Le terrible docteur von der Leyen était flanqué de son conseiller spécial, c'est un virologue belge.
Il a rappelé, ce virologue belge, il a rappelé que l'humanité n'a réussi à éradiquer qu'un seul virus de la variole.
En effet, ce pessimisme et la frustration de la Commission se comprennent. Elle est plantée à Bruxelles, au milieu d'une Belgique qui est débordée par le virus, mais encombrée de 9 ministres de la Santé, record mondial. Ils retardent toutes les décisions, comme une ambulance qui serait conduite par 9 chauffeurs en même temps et jamais d'accord sur l'itinéraire.
Merci Vincent Hervouet, on va suivre ce Conseil européen ce soir. Évidemment, on en reparle dans le journal de 8h tout à l'heure. Il est 7h19. À suivre l'édito sport. Bonne nouvelle pour le sport professionnel. Malgré le confinement, les matchs pourront avoir lieu. Mais tous les sports n'en bénéficieront pas. On en parle dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On va pas parler de la deuxième mi-temps du PSG. Hier, le président de la République parlait en même temps. On a évidemment regardé Emmanuel Macron. Malgré le reconfinement, les compétitions sportives professionnelles vont être maintenues. Virginie, on aura toutes les précisions aujourd'hui. Pour vous, il faut quand même faire le distinguo entre le foot, le football et les autres sports qui ne sont pas du tout logés à la même enseigne.
Il y a une certitude et beaucoup de questions autour du sport à la veille de ce reconfinement. Le président Emmanuel Macron n'a pas évoqué le sujet hier soir. On va éviter les polémiques inutiles. Ça n'était sans doute pas le moment. La certitude, c'est que les compétitions ne s'arrêtent pas pour le sport professionnelle. En soi, c'est déjà un petit soulagement. Hein. La vie continue un peu, malgré tout. Mais c'est pas aussi simple que ça. En gros, il y a le football d'un côté, oui, et les autres sports pour lesquels ça va être beaucoup plus difficile. Certes, les clubs de foot perdent de l'argent avec les matchs à huis clos, mais la billetterie n'est pas leur principale ressource. Leur gagne-pain, ce sont les droits télé. Enfin, j'espère qu'ils seront payés, mais ça, c'est un autre débat. Donc, le championnat va continuer presque comme avant. L'autre exemple de perturbation minimale, c'est le Rolex Paris Masters de tennis qui est prévu la semaine prochaine à l'Accor Arena. Il devrait bien se jouer, même sans spectateurs. Le tournoi fait face, hein, notamment en baissant d'un tiers les dotations pour les joueurs qui participent. Donc on arrive à s'organiser, bon an, mal an. C'est le cas aussi pour le Vendée Globe, hein, avec des voiliers qui vont s'élancer tout seuls sans public.
Oui.
Ça fait mal au cœur, mais c'est possible de le faire.
Pour les autres sports, c'est beaucoup plus compliqué.
Ben, c'est là que le bas blesse. Hein. Le rugby, le basket, le handball, le volley, ces sports ne vivent pas des droits télé, mais surtout de la billetterie et des partenariats. Sans spectateurs, les clubs ne peuvent pas tenir. Alors est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire une pause d'un mois ? Pour le basket et le hand, ça me semble être une bonne solution parce que non seulement à huis clos, ils ne s'en sortent pas économiquement, mais en plus, en continuant sans les spectateurs, ils détruisent la proximité que ces sports ont avec le public, ce qui fait leur force. Et à moyen terme, c'est sans doute pire que tout. On n'est qu'au début de la saison, c'est possible d'aménager le calendrier en reportant les matchs. Le problème, c'est que jouer un match de basket tous les deux jours en 2021 pour rattraper le temps perdu, c'est possible. Un match de rugby tous les deux jours, ça en revanche, ça n'est pas possible. Donc il y a beaucoup de questions. Avec quand même une certitude, le sport aura besoin de l'aide de l'État. Un vrai plan d'urgence pour le sport, sinon il y aura beaucoup de casse, notamment dans le sport amateur, mais ça on aura l'occasion d'en reparler.
On aura l'occasion d'en reparler, surtout de surveiller le calendrier, l'enjeu du calendrier, l'objectif de Noël, je vous l'ai déjà rappelé, dans 4 semaines reconductibles, il faut retenir le reconductible. C'est la formation qu'Europe 1 révèle ce matin. Le plan de reconfinement parlerait en réalité de 8 à 12 semaines. Nous en reparlerons évidemment dans nos journaux. Merci Virginie Fulpin, c'était l'édito sport. Il est 7h24. Il est toujours 7h24. Et nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un petit moustachu de 61 ans, Astérix. C'est en effet un 29 octobre 1959 que paraît pour la première fois dans le journal Pilote les aventures du célèbre Gaulois.
Et donc, vous allez nous expliquer d'où vient l'astérisque et d'où vient l'obélisque.
Partout à Tis, non. Nous allons faire un petit tour des mots et expressions issus de la culture gauloise. D'abord, sachez que si on prend un dictionnaire français de 60 000 mots, 14% d'entre eux sont d'origine étrangère et seulement 350 mots viennent du gaulois. Ben, c'est la faute aux druides qui se méfiaient de l'utilisation de l'écriture, mais aussi forcément aux romains qui imposèrent leur langage. Ce qui est amusant de constater, c'est que la civilisation romaine a pris son essor grâce au commerce. Du coup, Rome a été à l'origine des mots désignant des choses qui se monnayaient, contrairement à d'autres qui échappaient à la vente. Ainsi, le miel est un mot romain, alors que la ruche est un mot gaulois. Dans la même logique, le vocabulaire noble a été accaparé par l'envahisseur. Là où les choses peu reluisantes ont été laissées aux Gaulois. La boue, la suie, la glaise, la cervoise, les magouilles, les truands, ce sont tous des mots gaulois, comme si les Romains les avaient autorisés pour donner à leurs adversaires une réputation peu flatteuse. Et pour finir, Mathieu, sachez que partout à Tis est un juron inventé de toutes pièces par Uderzo et Goscinny. On ne disait absolument pas ça au temps des Gaulois, même s'ils se sont fortement inspirés de Teutates, qui était un authentique dieu celte.
Et là, le ciel me tombe sur la tête, mon cher Stéphane. 16h, historiquement vôtre, avec Mathieu Noël.
16h03 précisément, Mathieu, soyez précis, comme nos personnages l'étaient. Aujourd'hui, trois perfectionnistes qui n'avaient qu'un seul but, atteindre la perfection. Le génie Léonard de Vinci, la gymnaste roumaine Nadia Comăneci et le créateur d'Apple, Steve Jobs. Bref, on vous raconte l'histoire à la perfection avec Mathieu Noël, dès 16h sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h. 7h27 sur Europe 1. Bon réveil, Sophie Echen, le journal, Laurent Cabrol, la météo dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, le journal, il est 7h30.
Nous à Mulhouse, on a vécu la première vague de façon extrêmement forte. Ça a commencé à être moins impactant pour nous à partir du moment où il y a eu le confinement.
Le soulagement des soignants après l'allocution d'Emmanuel Macron. Enfin, le retour du confinement ce soir à minuit. Seul moyen de combattre le virus, disent-ils. Un reconfinement plus souple, contrairement au printemps dernier. Cette fois, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Assouplissement pour les travailleurs aussi. Usines, exploitations agricoles, tribunaux et services publics continueront à fonctionner. le confinement pour sauver des vies, mais combien coûte la mesure? Et puis une dernière permanente avant d'être mise sous cloche, ruée vers les salons de coiffure à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, crèche, école, collège et finalement lycée ouvert, comment s'organiser pour la rentrée dans un pays confiné? Bruno Bobkiewicz, proviseur d'un groupe scolaire de 1900 élèves, le tête-à-tête Europe Matin. Décryptage de l'allocution du président dans l'édito politique de Catherine Ney, juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Retour à la case départ à partir de ce soir, minuit. Reconfinement partout et pour tout le monde. Emmanuel Macron l'a officialisé hier soir au cours d'un discours très solennel. Allocution une nouvelle fois suivie avec attention par les Français, par les personnels soignants notamment. À Mulhouse, Arthur Mbaché a regardé la prise de parole du chef de l'État avec des médecins soulagés par ce nouveau confinement.
Quelques copains médecins mulhousiens rassemblés pour regarder le président sur le canapé devant la télé. Il y a notamment le psychiatre Thierry Ressel et Frédéric Trinichevski de SOS Médecins, rassurés par le reconfinement.
Personnellement, je le vois avec beaucoup de soulagement. Nous, à Mulhouse, on a vécu la première vague de façon extrêmement forte et on s'est bien rendu compte que ça a commencé à être moins impactant pour nous à partir du moment où il y a eu le confinement. C'est ça ce qui a fonctionné.
Par contre, quand on laisse toutes les écoles ouvertes, ça va quand même être une source possible de contamination.
Donc vous craignez que ce confinement-là soit moins efficace que celui de mars ?
Oui.
Juste le temps de mettre ma vidéo. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez ?
Très bien.
Allocution présidentielle à peine terminée, réunion de travail avec des confrères, dont Philippe Vermech du syndicat des médecins libéraux.
Ça a été une catastrophe de laisser nos anciens dans les EHPAD sans visite, sans rien. Même pour les enterrements, puisqu'il en a parlé, les cimetières resteraient ouverts. Pour ça, ils ont tiré les leçons du passé.
Maintenant, patience, dit un médecin. Rendez-vous dans 2, même plutôt 3 semaines pour les effets de ce deuxième confinement. En attendant, comme au printemps, on serre les dents. Mulhouse, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et il va même falloir serrer les dents plus longtemps que prévu. Car si le chef de l'État a mentionné un confinement jusqu'au 1er décembre, en réalité, l'Élysée envisage d'allonger la mesure jusqu'à Noël, voire jusqu'à la fin du mois de janvier. Révélation de Louis Dragnel. Plus d'informations dans le journal de 8h.
Ce confinement, nouvelle version. Les modalités en seront précisées par le Premier ministre Jean Castex en fin d'après-midi. Le chef de l'État a déjà annoncé quelques assouplissements, en milieu scolaire notamment.
Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé.
Alors justement, concernant le travail, là aussi, il y aura des différences par rapport au printemps dernier. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui va changer cette fois-ci ?
Alors ce qui est nouveau, c'est le fait que les guichets des services publics resteront ouverts. À Pôle emploi, par exemple, les chômeurs seront accueillis dans les agences, alors que ce n'était pas le cas au printemps dernier. Dans les tribunaux, les audiences se tiendront. Dans les CAF, on pourra venir faire avancer son dossier. Dans le secteur privé, Emmanuel Macron a évoqué les usines, les exploitations agricoles, le bâtiment et les travaux publics qui continueront de fonctionner. Ça, c'était déjà le cas lors du premier confinement, mais il y avait eu quelques semaines de flottement, dans le BTP notamment. Beaucoup de chantiers s'étaient arrêtés dans l'attente de la publication du protocole sanitaire et avait redémarré ensuite en mode mineur. Là, il n'y a plus de raison. D'où la petite phrase du chef de l'État, l'activité s'exercera avec plus d'intensité. Enfin, dans les emplois de bureau, le télétravail sera à nouveau généralisé. Là où c'est possible, l'employeur devra faire basculer un maximum de salariés dans cette pratique. Le ministère du Travail a indiqué hier soir que sur ce point, le protocole sanitaire va être modifié. Aujourd'hui, il impose à l'employeur de fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. La nouvelle formulation sera plus catégorique.
Précision d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Les compétitions sportives professionnelles pourront continuer. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l'a confirmé à l'Assemblée nationale.
La flambée des chiffres se poursuit. Plus de 36 000 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier. Plus de 3 000 patients en réanimation et 244 morts.
L'objectif du confinement est de réduire les contaminations et donc le nombre de victimes. Ce matin, on s'interroge. Combien coûte une vie sauvée par cette mesure drastique ? Question à laquelle a répondu l'économiste Patrick Artus, chez nos confrères du Monde. Rémi Bossaron.
Chaque vie sauvée par le premier confinement a coûté 6 millions d'euros. C'est ce qu'affirme Patrick Artus, qui s'appuie sur un calcul simple. Un mois de confinement, c'est selon lui 20 000 vies sauvées. Mais c'est aussi 5 points de PIB en moins, ce qui représente 120 milliards d'euros. Chaque vie a donc bien coûté 6 millions d'euros à la France. Un calcul froid, mais justifié, selon l'économiste, qui le compare à celui pratiqué dans les transports, quand on se demande s'il vaut mieux construire une autoroute ou une ligne de TGV qui permet d'épargner éloignée des vies. Conclusion de cette comparaison, selon lui, une vie coûte 6 fois plus cher pour le Covid que pour les autoroutes. Et il fustige l'absence d'anticipation du gouvernement, condamné, selon lui, à rectifier son budget à chaque étape de l'épidémie. Mais il reconnaît un mérite aux dépenses publiques concédées depuis le début de la crise, quel que soit leur montant, elles permettent de limiter les coûts irréversibles, c'est-à-dire ceux liés aux faillites d'entreprises et aux pertes d'emplois.
Je vous conseille, il y a un côté cynique, je me le permets, hein. Il y a un côté cynique dans le travail de l'économiste Patrick Artus. Mais maintenant, si je vous dis froidement, une vie, 6 millions d'euros, c'est cher ou pas? Je ne sais pas.
La
si
vie
c'est
n'a
cher.
Pas de prix.
La vie n'a pas de prix. En l'occurrence, on a fait un calcul en l'occurrence du côté de ces économistes. On vous a expliqué comment. Peut-être que j'en dirai un mot à Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, au regard de la dépense publique en ce moment, qui est importante. À quelques heures de cette nouvelle mise sous cloche, certains n'ont pas attendu pour se précipiter vers les supermarchés. Nouvelle ruée vers les rayons de pâtes, de riz, de papier toilette. Vous vous en souvenez des scènes qui rappellent le mois de mars dernier.
Oui, ruée aussi vers les salons de coiffure. Pas question de se retrouver au dépourvu au niveau capillaire. Cette fois-ci, depuis 2 jours, les professionnels sont submergés. Reportage d'Élise Dangean dans un salon parisien.
Là, il y a combien de temps qu'ils ont été coupés vos cheveux ?
1 mois et demi, 2 mois.
Viviane aurait pu attendre encore un peu, mais avec la menace d'un nouveau confinement, il a fallu prendre les devants.
Bah, j'avais plutôt l'intention de venir la semaine prochaine, mais résultat, je suis venue cette semaine.
Pour beaucoup de clients ici, le souvenir du précédent confinement est encore bien présent. Les cheveux trop longs, les racines trop apparentes. Martine, 77 ans, a donc pris rendez-vous en urgence. Et a choisi une couleur confinement compatible.
Quentin qui est là essaye de me faire une chose poivre et sel. C'est ce que je voulais pour que ce soit un peu plus naturel. Puis s'il y avait confinement beaucoup plus long, que ce soit moins choquant avec des racines.
Cécile, elle n'est pas venue chercher la coiffure parfaite, mais bien quelques heures d'évasion.
Comme on n'a que des annonces un peu négatives, ben j'ai voulu me faire plaisir et du coup j'ai profité. Au pied levé, j'ai regardé sur internet et j'avais rendez-vous 1 heure après.
Depuis 2 jours, les réservations du salon ont plus que doublé, réconfortant pour Romain, son manager.
On se rend compte que c'est vraiment un commerce qui était nécessaire au quotidien pour eux.
Nécessaire pour les clients, mais manifestement pas pour le gouvernement. Plus que quelques heures pour un dernier coup de ciseau.
Et dans l'actualité aussi, la France va plaider en faveur de sanctions au niveau européen contre la Turquie. Réaction à la promesse d'action diplomatique du président Erdogan après la caricature publiée en une de Charlie Hebdo hier. Et puis, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Istanbul hier soir contre le Başakşehir, 2-0 en Ligue des champions de football. Défaite de Rennes, en revanche, battue par Séville, 1-0.
Merci beaucoup Sophie Echen, il est 7h38.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'objectif ? Sauvez Noël. Vous l'aurez confié, ce mois de reconfinement reconductible, j'insiste, reconductible, confinement de l'avant, disait-on hier matin encore. Le risque réel de voir cette nouvelle étape durer jusqu'au mois de janvier. Noël, c'est dans 2 mois pour nous tous, sauf pour les commerçants. Pour eux, Noël, c'est maintenant. En cas de reconfinement, on va vers un écroulement de l'économie française. C'est ce que disait Geoffroy Roux-de-Bézieux en début de semaine. Il est mon invité à 8h15 tout à l'heure. Mais tout de suite, pour que les parents puissent travailler, pour que les élèves ne décrochent pas, les crèches, écoles, collèges et même les lycées resteront ouverts. Mais dans quelles conditions ? Bruno Bobkiewicz est à la tête d'un groupe scolaire de 1900 élèves en région parisienne. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, 7h41. Ce soir, le pays reconfiné. Mais lundi, c'est la rentrée. C'est la différence principale avec le printemps dernier, le maintien des crèches, écoles, collèges et même lycées. Mon invité, Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et secrétaire académique du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Bruno Bobkiewicz.
Bonjour.
École, collège, lycée, ouvert. On va parler des lycées, hein. C'est la surprise d'hier soir. Mais d'une manière générale, d'abord, on parle ce matin d'un protocole sanitaire renforcé. Est-ce que vous en savez plus ?
Absolument pas.
C'est-à-dire d'accord.
Je pense que des précisions vont être apportées aujourd'hui sur la façon dont ça va pouvoir se mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'on est impatient de savoir parce que objectivement, ça a des impacts importants sur l'organisation.
Certains parlent déjà de masques dès l'école primaire.
Alors oui, ça concerne les écoles primaires, effectivement, mais concernant les collèges et les lycées, est-ce qu'on va accueillir tout le monde ? Est-ce que la cantine va fonctionner ? Est-ce qu'on va devoir refaire les emplois du temps ? Enfin, il y a quand même beaucoup d'inconnus à ce stade.
Alors, beaucoup d'inconnus, la rentrée, c'est dans 4-5 jours. Vous serez prêt ?
Je ne pense pas. Et je pense objectivement que l'idée, c'est peut-être pas une mise en œuvre dès le 2 novembre. Donc, je pense que si le ministère tient compte de nos expériences du mois de mai et juin, ils vont nous laisser un peu plus de temps pour mettre ça en fonctionnement, peut-être d'ici la semaine d'après. Enfin, c'est à voir.
Ah, pour vous, il faudrait qu'il y ait une semaine de confinement des enfants avant de pouvoir relancer l'école.
Ça dépend du... Non, je crois pas. Je pense que ça va redémarrer dans des conditions classiques à partir de lundi et que les aménagements qui seront nécessaires dans le cadre du protocole renforcé le seront peut-être quelques jours après. En tout cas, si les changements sont profonds, je ne pense pas qu'on soit en capacité de les mettre en œuvre lundi. Ça dépend des décisions qui vont être prises.
Mais en capacité de les mettre en œuvre sur le plus long terme, à savoir éviter que les élèves se croisent, peut-être des groupes, des cours un jour sur deux.
Ben voilà, si c'est ça, il nous faut un peu de temps. Est-ce qu'on va être sur une alternance de groupes en mélangeant présence et distance? Est-ce qu'on va demander à ce que les classes ne changent pas de salle et qu'elles soient toujours dans la même salle? Est-ce qu'on va interdire la récréation? Est-ce qu'on va fermer les cantines? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont à préciser. À ce stade, on n'est pas en capacité d'avancer sur des hypothèses.
Je voudrais rappeler quand même que dans les groupes scolaires comme le vôtre, dans les écoles, collèges, lycées, il y a aussi des adultes qui travaillent, ne les oublions pas tout de même. Les enseignants vont-ils accepter ce qui a été annoncé hier?
Est-ce qu'on a le choix, objectivement? Il y a une décision nationale qui a été prise. Il ne s'agit pas de stigmatiser une population en particulier. Les personnels de l'éducation nationale vont contribuer au fonctionnement comme les autres catégories de salariés vont le faire dans leur propre secteur. Donc il ne s'agit pas de dire seuls les personnels de l'éducation nationale travaillent et les autres restent chez eux. Donc à voir en fonction des... Il faut à la fois concilier, parce que tout le monde a bien conscience du fait que c'est bien mieux d'être à l'école, mais tout en garantissant les conditions de sécurité, à la fois pour les élèves et pour les personnels, évidemment.
La nouveauté, la surprise en tout cas hier soir, ce sont les lycées. Les lycées restent ouverts. Alors s'il y a consensus scientifique sur les enfants, on l'a rappelé hier matin, ils sont peu contaminés, peu contaminants, peu dangereux. Et si on prend un rapport bénéfice-risque, il y a plutôt intérêt à les laisser à l'école. Les lycéens, c'est autre chose. 15-18 ans, on les considère presque comme des adultes à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes serein?
Ça va dépendre des choix qui vont être faits. Objectivement, on a bien vu que début octobre, contrairement au mois de septembre où on avait peu de cas, on a eu une accélération sur les deux dernières semaines avant les vacances. Si on est sur un même rythme, c'est vrai que ça devient très compliqué. Alors on est avec le port du masque en permanence, on limite les effets de contamination, mais la cantine et le PS sont deux zones importantes risquées. Et c'est ce sur quoi il va falloir travailler. C'est-à-dire, on va évidemment continuer à porter le masque, et pour ça, les élèves sont très respectueux globalement de cette mesure. Mais il y a des moments où on est obligé de le retirer, c'est-à-dire la demi-pension, le moment du repas et la pratique de l'EPS. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut peut-être avancer et travailler, au-delà même du format de la classe. Tout ça nécessite beaucoup de précision.
Crèche, école, collège, lycée ouverts, les universités, les études supérieures en distanciel. Je voulais vous poser une question presque technique. Qu'en est-il des prépas?
Les prépas et les BTS font partie des formations qui sont intégrées dans les lycées. Et jusqu'à présent, toutes les décisions liées au lycée concernaient également les étudiants de prépa et de BTS. Donc, il serait assez cohérent qu'on soit sur la même logique. C'est-à-dire, si les lycéens de terminale sont autorisés à revenir, il serait logique que les étudiants de BTS et de prépa qui travaillent dans le même espace soient également autorisés à revenir. Ça reste également à préciser, mais ce serait assez cohérent.
Alors on craint évidemment pour le décrochage. Pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup d'initiatives, les enseignants se sont mobilisés à distance, on a réussi tant bien que mal, on craint pour le décrochage et pour la perte de niveau. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact qu'a eu le premier confinement sur les collégiens lycéens?
Non, à ce stade, c'est difficile de le dire, mais les enseignants, quand on échange avec eux, ont bien effectivement identifié le fait que les écarts s'étaient creusés, et que le niveau de difficulté était plus important pour des élèves qui, notamment, avaient été identifiés comme décrocheurs depuis le mois de mars. On a des élèves qui ont été coupés quasiment de tout enseignement pendant presque 6 mois. Donc il y a forcément une conséquence d'un point de vue concentration, d'un point de vue niveau scolaire et capacité à reprendre le train en marche.
Lundi, c'est trop tôt pour un protocole sanitaire renforcé dans les collèges-lycées. Merci Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et secrétaire académique du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Merci et bon courage dans la préparation de cette rentrée. Merci. Il est 7h47 sur Europe 1. À suivre, retour sur les annonces d'Emmanuel Macron hier soir, décryptage dans l'édito politique de Catherine Ney, avant de retrouver Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h50 sur Europe 1. Je voudrais qu'on ait un tout petit instant, si vous le voulez bien, qu'on s'arrête un tout petit instant, parce qu'on parle beaucoup d'organisation, de protocoles sanitaires. On parle beaucoup de chiffres aussi, on s'inquiète pour l'économie, et puis les chiffres évidemment de réanimation et les décès du coronavirus. Avant de retrouver Catherine Ney pour l'édito politique, je voudrais vous partager avec vous ce qu'on a entendu sur Europe 1 à 5h40. Un peu d'humain dans tout ça, si vous le voulez bien. On se rappelle de l'objectif. L'objectif, c'est Noël. C'est hypothétique, Noël. Peut-être serons-nous confinés. Pas de messe pour les croyants. Nous avons appelé le père Daniel Duigou, qui est curé dans le 4e arrondissement de Paris. Écoutez ce qu'il disait au micro de Simon Rubin.
Pour les chrétiens, le culte n'est peut-être pas essentiel. L'important, c'est d'être avec les autres, c'est de communier avec les autres. Et plus que jamais aujourd'hui, un chrétien doit être d'abord un citoyen qui doit communier avec les autres citoyens. Et la meilleure façon de vivre la messe, je dirais, c'est d'accepter avec les autres les contraintes, parce qu'il s'agit, encore une fois, de vivre, de continuer de vivre et de faire en sorte que la vie soit possible.
Le père Daniel Duigou, ça fait un peu réfléchir aussi ce matin, on en a besoin. Le père Daniel Duigou, invité du 5-7 d'Europe 1 au micro de Simon Rubin. Interview à retrouver sur europe1.fr. Il est 7h50.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'édito politique, comme on s'y attendait depuis le matin, le président a annoncé le reconfinement général. Car rien n'est plus important que la vie humaine. J'ai décidé, a-t-il dit, j'ai décidé. Cette décision lui revient en effet à lui seul.
Oui, et à le voir, on sentait combien pesait sur lui physiquement le poids de cette charge. Qui avait envie d'être à sa place hier soir, hein ? Le visage amaigri, le teint pâlichant malgré les lumières toujours si valorisantes de l'Élysée, cela trahissait la fatigue. Et jusqu'à sa veste de costume qui avait l'air trop grande, qui flottait un peu aux épaules. Ah non, c'était pas Jupiter victorieux. Il parlait vite, trop, difficile à suivre quand il faut prendre des notes.
Je me joins à vous.
Il lisait le prompteur sur un ton un peu mécanique, presque désincarné. Mais comment se faire poète ou philosophe quand on énonce les modalités d'un nouveau tour de vis ? Bref, qu'on donne un vrai coup de massue sur le pays.
Rationnellement, chacun peut comprendre ces décisions difficiles.
Ben oui, parce que le monde médical, cette fois, est unanime. Sur le plan sanitaire, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Il faut d'urgence casser le virus dont on a perdu le contrôle. Et les chiffres font peur. Ça flambe en nombre de morts, d'hospitalisations, de réanimations. Mais pitié, monsieur le président, épargnez-nous cette fois le docteur Salomon qui jouait chaque soir à la télé les croque-morts. Ah non, pas cette fois. Oui, ce virus est un salopard qui mériterait la peine de mort. Sauf que c'est lui qui nous tue ou nous affecte durablement et nous met en prison.
Le problème pour Emmanuel Macron va être l'acceptabilité de l'opinion.
Oui, ce confinement va en rassurer, par exemple, ceux qui ont l'angoisse de la maladie pour eux ou leurs proches. Mais il y a aussi la peur de la solitude ou trop de promiscuité, mais surtout la crainte d'un désastre économique. Tous les commerçants qui ont fait des stocks pour Noël, c'est la catastrophe pour eux, la punition. Bien sûr, on va les aider. L'économie ne doit pas s'arrêter, a dit le président. Très bien, mais beaucoup savent qu'ils n'y survivront pas. Leur horizon, c'est le chômage, la dette, car il faudra bien rembourser.
Faut-il craindre des mouvements de révolte ?
Mais l'Italie est confrontée à des contestations violentes, des émeutiers défilent couvre-feu, ils brûlent des voitures, mais à quoi ça sert de manifester contre un virus, de tout casser pour exprimer la colère ? Bien sûr, tout peut arriver dans un pays déjà énervé, car fragilisé. Mais pour le pouvoir, ce qui est en jeu, c'est la cohésion du pays face à cette nouvelle épreuve. Et c'est vrai, c'est pas gagné.
Merci Catherine Ney, l'édito politique. Il faut prendre tous le temps de réfléchir. On attend des annonces. Oui, 18h30, c'est peut-être tard, hein, les annonces de Jean Castex, le détail à quelques heures du confinement. Mais on a aussi besoin de réfléchir parce qu'on a connu un premier confinement. On a connu le mois de mars-avril. Alors j'espère qu'on a tiré des leçons de tout ça. On va reparler de tout cela, notamment avec Geoffroy Roux-de-Bézieux à 8h15, 7h54.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Et justement, tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, et Emmanuel Macron, tiens, voulait lui dire un mot ce matin.
Oui, bonjour à tous, bonjour monsieur Béliard, bonjour à madame Ney, qui était sensible à mon apparence hier, là, la Christina Cordula d'Europe 1. Merci sur ce costume trop grand. Et écoutez, je ferai attention la prochaine fois, je vous consulterai. Écoutez, oui, je voulais dire un mot à Geoffroy Roux-de-Bézieux. Désolé Geoffroy, pour une fois, hein, reconnais-le, je ne t'ai pas écouté. Ceci dit, reconnais que ce n'est pas souvent. Hein, d'habitude, reconnais qu'on est plutôt obéissant. Mais là, j'ai dû reconfiner. Je sais que tu n'étais pas d'accord, mais tu peux bien nous laisser prendre une décision de temps en temps. On n'est pas gourmand, admets-le. Et puis franchement, si tu voulais avoir raison aujourd'hui encore, eh bien, tu n'avais qu'à faire médecine au lieu de faire un BTS d'action commerciale. Ceci dit, rassure-toi, cher Jojo, comme on a le droit d'accompagner ses enfants à l'école, tu l'as entendu hier, je l'ai annoncé, tu auras bien sûr une dérogation pour amener Bruno Le Maire à Bercy. Voilà. Allez, bonne interview mon Jojo, et puis ne fais pas la tête, on se prend un apéro Zoom ce week-end.
C'est signé Nicolas Canteloup. Alors, je reviens, Nicolas, permettez-moi, sur le BTS d'action commerciale. De grandes études chez Geoffroy Roux-de-Bézieux, mais tiens, j'ai une question. Commando marine, Geoffroy Roux-de-Bézieux, dans sa jeunesse, ancien militaire. Cette guerre qui est menée par des civils, j'ai quelques questions à lui poser aussi là-dessus. Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF à 8h15, et Nicolas Canteloup, la revue de presse, à 9h moins le quart, 7h56. Il est 7h59 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et le soleil est avec nous aussi, il revient par le sud, il vient d'Espagne, c'est l'anticyclone qui pousse, hein, comme je disais tout à l'heure, et il booste les nuages hors de France, alors ça va être un petit peu long. Aujourd'hui c'est le sud-ouest, le bassin méditerranéen, la Corse qui vont en bénéficier. Nous aurons un brin de soleil, mais vraiment tout brin, tout petit, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Limousin. Je n'oublie pas la Picardie, la région parisienne, la Bourgogne, le Berry, l'Auvergne et les Alpes du Nord, où là ce sera un ciel quand même très encombré, très nuageux. Il ne devrait pas pleuvoir, notamment sur Paris. Sur le nord, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Là, un petit peu de bruine. Allez, ça sera humide. Température maximale entre 14 et 20 degrés. Demain, vendredi, l'amélioration ira crescendo. Nous allons avoir un anticyclone, comme je le disais à l'instant, qui va progresser. Il va sortir ses petits bras musclés et il va dégager totalement le soleil, dégager les nuages, ou presque tous. Et puis samedi, ça sera la plus belle journée de la semaine, avec soleil et chaleur pour nous tous. Et attention au brouillard le matin, mais enfin, on en reparlera.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Bon réveil. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Qu'est-ce qu'on fait pour que les commerces ne meurent pas ? Là, 80% d'entre nous vont avoir la tête sous l'eau. Et là, on va se noyer.
Reconfinement général ce soir minuit et désarroi, colère de ce commerçant bordelais, comme des millions de commerçants de France obligés de baisser le rideau au pire moment, juste avant la période cruciale des fêtes de fin d'année. Des angoisses d'autant que cet isolement d'automne pourrait bien déborder sur l'hiver. Il pourrait s'étendre jusqu'à fin janvier. Révélation à suivre de Louis Dragnel. Dans ce journal, nous allons décrypter ce confinement. Autour de la table avec nous, Emmanuel Dutheil, les conséquences économiques. Nous serons avec Victor Dolande pour une projection sur la situation épidémique des semaines à venir. Nous serons à Bruxelles. Les mesures françaises sont plus sévères qu'ailleurs en Europe, nous dira Isabelle Horry. Et puis le docteur Jimmy Mohamed nous rejoindra. Comment traverser au mieux ce nouveau confinement ? Question notamment autour de l'activité physique.
Juste après ce journal, il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée, a dit le président hier. Rien n'est plus important que la vie humaine. Mais il faut reconnaître que c'est un coup très dur pour les acteurs de l'économie, déjà fragilisés par la première vague. À 8h15, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un reconfinement pour endiguer la deuxième vague épidémique, mais une autre vague arrive et elle s'annonce massive, celle des faillites. Des petits commerçants, bijouteries, parfumeries, fleuristes, magasins de vêtements de nos centres-villes, une nouvelle fois contraints de fermer.
On va se noyer, clame-t-il. Partons dès ce matin à Bordeaux, où l'exaspération est vive chaque année. L'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé entre le 1er novembre et le 15 décembre. Alors hier soir, quand ils ont entendu Emmanuel Macron, ces commerçants ont pris une véritable claque, Stéphane Place.
La fin de l'année, le pire moment pour baisser le rideau pour cette parfumerie bordelaise que dirige Sophie avec son associé.
C'est une catastrophe. Moi, mes collections de Noël, je les mets en boutique le 2 novembre. J'ai acheté tous mes stocks. Comment voulez-vous que je les vende après ? Si déjà sur un mois, on fait zéro. Normalement, c'est échelonné.
Quelques rues plus loin, ce magasin de sport d'hiver, novembre-décembre, représente 40% de l'activité annuelle. Ici, travaillent une trentaine de salariés. Le premier confinement, c'est un prêt garanti par l'État et le chômage partiel qui ont permis à l'entreprise de le surmonter. santé. Aujourd'hui, c'est en gardant un œil sur sa trésorerie déjà entamée que David Ducournau, le directeur de Sport Aventure, doit piloter l'enseigne.
Débloquer ce qui est débloquable en termes de trésorerie et de cash immédiat, limiter les paiements sur les fournisseurs qui sont non essentiels, c'est vraiment du pilotage de guerre, entre guillemets. Après, on est une entreprise à deux têtes, on a des magasins, on a du e-commerce, pour justement se permettre de pouvoir être beaucoup plus résilient qu'un commerce uniquement avec un pas de porte. Pour autant, oui, il y aura un impact très fort.
Rares sont les commerces du centre-ville à disposer d'un site marchand sur Internet. Le report massif des consommateurs sur le commerce en ligne pour les fêtes, c'est même une crainte majeure des boutiques indépendantes. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Le désarroi de ces commerçants pour qui Emmanuel Macron a promis des aides, mais l'avenir paraît sombre. On va d'abord parler de cela avec vous, Emmanuel Duteil. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous le révélez ce matin, le sort de ces commerçants a été âprement discuté hier lors des ultimes arbitrages, mais l'Élysée est restée inflexible, très peu de dérogations.
Pourtant, ça n'a pas été faute d'essayer. Chaque ministère a tenté de défendre des dérogations pour ses propres secteurs d'activité. Selon nos informations, des réunions intenses et parfois rudes se sont tenues ces derniers jours sous la place Beauvau à Paris, au centre de crise. À Bercy aussi, les fédérations professionnelles sont venues plaider leur cause. Bruno Le Maire lui-même a jeté toutes ses forces dans la bataille hier lors du Conseil de défense. Le ministre de l'économie voulait obtenir que les commerces puissent ouvrir beaucoup plus largement. Si tu fermes les petits commerces, c'est la révolution. Les mecs sont à bout, résumé hier un des proches du ministre. Mais voilà, l'Élysée a donc dit niet.
Mais donc Emmanuel, concrètement, qu'est-ce qui sera ouvert ?
Eh bien, on est exactement dans la même configuration qu'au printemps. Tous les commerces non essentiels sont fermés, c'est-à-dire que les restaurants, les bars, les coiffeurs, les libraires ou encore les fleuristes sont fermés. Toute petite dérogation pour les fleuristes qui vont fermer à la fin du week-end pour permettre aux Français quand même qui le souhaitent de fleurir les tombes. Mais le sapin de Noël, lui, il faudra plutôt l'acheter du coup en grande distribution. Tous ces petits commerces pourront quand même avoir des services de click and collect. Les marchés couverts et en plein air seront eux ouverts. Dans 15 jours, un point va être fait. Et si ça va mieux sur le front de l'épidémie, des dérogations pourraient alors intervenir.
Un point toutes les deux semaines. Les informations d'Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Deuxième interrogation ce matin. Combien de temps ce confinement va-t-il durer ? Emmanuel Macron a annoncé 4 semaines, à minima, mais il a aussi prononcé cette petite phrase. Écoutez bien.
Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Cette petite phrase, elle est lourde de sens. Vous nous le révélez ce matin, le confinement pourrait durer bien plus que 4 semaines.
Oui, il pourrait durer en réalité jusqu'à Noël et même au-delà, jusqu'à la fin du mois de janvier. 8 à 12 semaines de confinement au total donc. C'est en tout cas le calendrier qui est envisagé à l'Élysée et je peux vous dire que la préoccupation des prochains jours, ce sera de savoir comment sauver Noël. Des réunions sont déjà programmées à Matignon pour réfléchir à la possibilité de lever le confinement pendant 2-3 jours autour de Noël pour permettre aux familles de se retrouver même brièvement.
Alors ça veut dire qu'Emmanuel Macron craint que les Français ne supportent pas un confinement trop long.
Oui, le chef de l'État le sait, il n'était pas possible d'annoncer dès hier 2 à 3 mois de confinement. Un de ses proches me l'a confié hier, le président est obsédé par la question de l'acceptation sociale de ces mesures. Il a vu les images de violence en Italie et il ne veut pas que ces scènes se reproduisent en France. C'est pour ça qu'il a parlé des 4 semaines à minima, c'est-à-dire 4 semaines reconductibles. Mais évidemment, l'exécutif espère que le confinement va avoir des effets rapides, ce qui éviterait de le prolonger. Mais à ce stade, ce serait une sorte de miracle de Noël.
Les révélations de Louis de Ragnel pour Europe 1. Reconfinement d'automne un peu moins sombre que celui du printemps adapté, selon le mot d'Emmanuel Macron. Plus de salariés au travail, via plus de télétravail et chômage partiel. Visite possible dans les EHPAD et des établissements scolaires ouverts, y compris les lycées. C'est une surprise.
Avec un protocole sanitaire réévalué, le Premier ministre Jean Castex doit apporter des précisions ce soir à 18h30.
Sur le front de l'épidémie, plus de 3000 patients en réanimation. On a dépassé la moitié des capacités hospitalières, 5800 lits que le gouvernement entend porter à 10 000.
Hier, le président de la République a expliqué que cette deuxième vague serait plus meurtrière que la première. Je me tourne vers vous, Victor Dolande, bonjour.
Bonjour.
Qu'a voulu dire Emmanuel Macron ? C'est vraiment plus grave qu'au printemps ?
Oui, prenons simplement un chiffre pour bien comprendre la différence entre les deux périodes. Au 17 mars, le jour du premier confinement, 2600 patients Covid étaient hospitalisés. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à 20 200 hospitalisations, soit près de 8 fois plus. Et ces chiffres vont inéluctablement se traduire par une multiplication d'admissions en réanimation, comme l'explique l'épidémiologiste Catherine Hill.
Comme les admissions à l'hôpital remontent furieusement
dans les derniers jours. Ça va se traduire par une augmentation furieuse des admissions en réanimation avec un décalage de 10 jours. Donc on sait déjà que dans 10 jours, la situation sera catastrophique en réanimation. Et comme on n'a pas décidé de confiner au maximum, le système va être beaucoup moins efficace.
Concrètement, il faudra plus de temps, aux alentours de 3 à 4 semaines, avant de voir un infléchissement de la courbe. Des semaines pendant lesquelles les services de réanimation vont se remplir, selon les dernières projections de l'Institut Pasteur. Le 6 novembre prochain, c'est-à-dire dans 8 jours, on pourrait compter jusqu'à 5700 patients en réanimation dans toute la France, ce qui représente 98% de l'ensemble des lits disponibles dans le pays. Et si on regarde un peu plus loin ces projections, le 13 novembre, 8100 personnes pourraient être en réanimation, bien au-delà de nos capacités d'accueil.
Explication signée Victor Dolande. On va maintenant dézoomer sur la carte de l'Europe. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Le virus déferle sur toute l'Europe, hein, Emmanuel Macron l'a rappelé hier. Ça n'empêche Isabelle que les mesures françaises sont les plus rigoureuses.
Et oui, les plus rigoureuses à l'échelle d'un pays entier, à égalité avec l'Irlande qui a imposé le reconfinement il y a 8 jours. Les Irlandais doivent rester dans un rayon de 5 km autour de chez eux, mais là-bas aussi les écoles sont ouvertes. Ailleurs, on n'en est pas là, pas encore en tout cas, même dans les pays où la situation sanitaire est proche de celle de la France, voire pire. Exemple, la Suisse voisine, les taux de contamination sont plus élevés que dans l'Hexagone. Eh bien hier, le gouvernement a juste annoncé la fermeture des bars et restaurants à 23h et la réduction des réunions privées à 10 personnes. Autre voisin très très atteint, la Belgique. On peut toujours s'y déplacer librement jusqu'à 22h et tous les commerces restent ouverts. Emmanuel Macron a aussi évoqué des mesures plus dures en Espagne et aux Pays-Bas. Mais en deçà des Pyrénées, juste un couvre-feu en soirée et des restrictions de déplacement local. Enfin, aux Pays-Bas, bars et restaurants sont fermés, mais pas de confinement ni même de couvre-feu.
Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va participer à un Conseil européen en visioconférence pour une coordination des pays de l'Union européenne sur la réponse sanitaire.
Et en France, débat et vote du Sénat et de l'Assemblée nationale. Confinement synonyme du retour des attestations dérogatoires. Nous vous le révélons ce matin, il y en aura 3. Une pour aller travailler, une pour aller chercher les enfants à l'école, mais aussi celle que nous connaissions au printemps pour aller chez le médecin, faire ses courses ou faire un peu de sport.
Alors justement, nous sommes avec Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Dans le journal de 7h avec vous, Jimmy, nous parlions de réapprendre à manger correctement. Autre question, docteur, sur les activités physiques, ce sera seul et près de chez soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ?
Oui, alors c'est autorisé et moi je vous le recommande puisque souvenez-vous, pendant la première vague, on a vu des gens souffrir d'états de stress liés au confinement, des troubles du sommeil. On sait tous que l'activité physique va vous permettre de diminuer ce niveau de stress et peut-être d'éviter de consommer des anxiolytiques. Même chose en ce qui concerne votre endormissement, vous dormirez mieux et vous serez un peu détendu. Ça, c'est valable pour tout le monde, mais en particulier pour une catégorie de patients, notamment ceux qui ont des pathologies chroniques. Si jamais vous avez de l'hypertension, du diabète, des pathologies rhumatismales comme une polyarthrite, des problèmes de dos, eh bien je vous recommande encore plus l'activité physique puisqu'elle sera encore plus bénéfique pour vous. Vous améliorerez vos maladies et vous éviterez de les dégrader car on s'est rendu compte que les gens allaient moins bien pendant cette période de confinement. Donc oui, faites une activité physique, ça vous paraît tout bête, mais descendez les escaliers, faites le tour autour de chez vous du pâté de maison, même quelques pas tous les jours régulièrement, ce sera bon pour votre santé.
Il y a quelques minutes, le porte-parole du gouvernement vient d'annoncer que les parcs et jardins resteront ouverts. C'est une bonne nouvelle, Jimmy.
C'est une bonne nouvelle, c'est nécessaire, non seulement pour l'état physique, mais aussi psychologiquement. Nous avons besoin d'une petite soupape de sécurité, car là, on n'est plus dans une course, on est dans un marathon, et tous ensemble, nous devons y arriver.
Les conseils de Jimmy Mohamed, spécialiste santé d'Europe 1. Merci. À l'étranger, plus de 8 millions de cas recensés en Inde, pays le plus touché derrière les États-Unis.
Et justement, le coronavirus, toujours un enjeu crucial du duel Joe Biden-Donald Trump, scrutin présidentiel J-5.
Comme chaque jour dans le journal de 8h, on retrouve Théo Manval pour son carnet de campagne. Bonjour Théo.
Bonjour à tous.
Vous êtes en Floride et on s'intéresse avec vous Théo au vote de la communauté latino, première minorité aux États-Unis devant les Afro-Américains.
Et ils devraient plus voter cette année. Vous êtes allé à leur rencontre Théo à Orlando, population hétéroclite. Difficile de savoir à qui va profiter ce regain de mobilisation. En tout cas, il ne va pas forcément desservir Donald Trump.
Effectivement, même si beaucoup des Latinos restent quand même les premiers à subir le chômage depuis le début de la pandémie. Mettre de la nourriture sur la table est devenu difficile, explique Annie Seris, jeune maman dominicaine, caddie presque vide en sortant du supermarché.
Je suis cuisinière et je n'arrive même plus à trouver un job dans un restaurant. On vit beaucoup du tourisme ici à Orlando, avec l'aéroport international et Disneyland. Mais là, il n'y a plus rien dans les hôtels ni les restaurants avec la pandémie. Donc on galère tous.
Les Latinos occupent beaucoup de ces boulots de petites mains. Et ici, perdre son emploi, c'est aussi perdre son assurance santé.
Aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais pas aller voir un spécialiste. Il faudrait que je me trouve un emploi avec une assurance. C'est ce qui me fait pencher côté Biden.
Et le programme santé n'est pas le seul argument qui pousse les Latinos du côté démocrate. Devant le bureau de vote anticipé du quartier, Anthony, d'origine cubaine, garde surtout lui en mémoire la campagne Trump de 2016.
Ah, ça, j'ai pas oublié. Construire le mur, le faire payer soi-disant par les Mexicains. On a un président qui refoule les réfugiés fuyant les dictatures d'Amérique du Sud. Je peux pas cautionner ça.
Mais vous le disiez, la population hispanique est tout sauf un groupe homogène. Quelques rangs derrière lui dans la file d'attente, Lissandra, née à Porto Rico, votera, elle, pour Donald Trump.
Il croit en les mêmes choses que moi. Il lui faut 4 ans de plus pour en finir avec l'avortement, le mariage homosexuel. C'est une élection importante pour les chrétiens.
La composante religieuse qui parle à une partie de cet électorat, tout comme la menace du communisme que le président agite à chaque fois qu'il parle de son rival Joe Biden. C'est tout sauf anodin, explique Eduardo Gamarra, politologue à l'Université internationale de Floride.
Ça a un écho chez les Cubains américains. Pour eux, Trump tient tête au régime communiste dans les Amériques, que ce soit à Cuba, Maduro, Venezuela. Ils pensent que Trump peut les libérer. Ils le voient comme leur homme fort.
Un homme fort qui compte dans les derniers sondages toujours près d'un tiers de soutien auprès des Latinos. Il leur a même concocté, écoutez, un spot publicitaire dédié.
Pour Donald Trump. Théo Manval, tous les jours dans le journal de 8h, les carnets de la campagne présidentielle américaine. Tous les reportages de Théo Manval à retrouver sur Europe1.fr.
Merci Jérôme Lacroix, il est 8h14. À suivre, l'invité politique de la matinale, jusqu'à 15 milliards d'euros par mois. C'est ce que coûte cette nouvelle version du confinement. Les espoirs de relance rapide de l'économie sont douchés et en une journée, Jean Castex doit discuter les détails de la prise de parole de Jean Castex à 18h30 tout à l'heure. Et sur Europe 1, dans un instant, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1. Nous sommes en direct avec Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour.
Énormément d'enjeux sanitaires, économiques. On va parler de chiffres ensemble. Mais d'abord, alors que le président de la République appelle au sens des responsabilités de chacun à un esprit citoyen, peu le savent. Mais vous avez servi sous les drapeaux, commando marine, l'élite de la marine nationale. Geoffroy Roux de Bézieux, que vous inspire ce combat-là, cette guerre-là ?
Je ne sais pas si on peut parler de guerre, parce qu'on est face à un ennemi qui est invisible et qui va et revient. Simplement, il y a peut-être la comparaison qu'on peut prendre, c'est une forme d'union nationale, de mobilisation. Elle est menée par des civils, évidemment. En tout cas, on a besoin de tous et on a besoin de tous être unis dans les efforts qu'il faut faire. Il y a beaucoup de sujets de responsabilité individuelle dans cette affaire. On sait que c'est l'essentiel des contaminations sont dans la sphère privée.
Geoffroy Roux de Bézieux, une guerre menée par des civils, je note et je reviens précisément aux annonces d'hier soir. Parlons-nous franchement, vous demandez la réouverture rapide des commerces.
Oui, je crois que... Je suis d'abord, évidemment, comme tout le monde, très conscient de la situation qui est très grave sur le plan pandémique. Simplement, dans le reconfinement, on va dire, allégé qui a été annoncé, qui n'est pas exactement celui de mars, le fait de fermer les commerces, qui ne sont en aucun cas responsables de la contamination, puisqu'ils ont tous mis en place les mesures barrières, les masques, le gel à l'entrée, est une erreur. On a besoin de ces commerçants, d'abord besoin de ces commerçants pour la vie sociale, mais surtout parce que derrière, il y a plus de 3 millions d'emplois. Ce sont des entreprises extrêmement fragilisées qui risquent d'aller en faillite. Alors je sais qu'il y a des mesures soutien qui vont être annoncées dans l'après-midi, mais à un moment, le soutien ne suffit pas. C'est-à-dire qu'un commerçant qui a 2-3 salariés, quand il n'a pas de perspective, notamment pour les mois les plus importants qui commencent maintenant, les fêtes de Noël, il va mettre la clé sous la porte.
Oui.
Donc le président a ouvert une porte hier en disant on peut discuter. Je crois qu'il faut qu'on discute avec les professionnels rapidement pour voir comment on peut ouvrir, peut-être dans des conditions plus restreintes, permettre aux Français, par exemple, de sortir une heure par jour, faire leurs courses dans ces magasins dits non essentiels.
Alors pour le coup, vous parlez de Noël, vous avez raison, c'est vrai qu'on a la perspective de Noël dans deux mois pour les commerçants. Noël, c'est maintenant. Et peut-être que c'est la goutte d'eau pour le petit commerce, on va suivre en détail, mais 8 à 12 semaines hein, en réalité, selon nos informations. 4 semaines reconductibles, l'information c'est reconductible, Geoffroy Roux de Bézieux.
Oui, j'ai entendu ce que vous disiez ou ce que disait une de vos journalistes avant. Mais raison de plus, si ça doit durer longtemps, et encore une fois, moi je ne conteste pas les décisions sanitaires, hein, je ne suis pas médecin ni spécialiste scientifique, mais si ça doit durer longtemps, au moins jusqu'à l'été, alors il faut mettre en place un système qui permet à la fois évidemment de protéger nos concitoyens, mais aussi de travailler. Pourquoi travailler ? Parce qu'on a besoin de produire de la richesse pour payer les hôpitaux, pour payer les infirmières. On peut pas mettre l'économie complètement sous cloche, donc... Il y a un progrès qui a été fait par rapport au confinement du mois de mars, notamment le fait que les usines, que les chantiers de travaux publics vont rester ouverts. Il y a ce problème des commerces non essentiels, y compris les restaurants. Comment on fait ? Je pense qu'il faut vraiment travailler avec les professionnels pour trouver des moyens d'ouvrir.
Alors, les commerces, les entreprises d'une manière générale, il y a plusieurs leviers d'inquiétude, je voudrais qu'on rentre dans le détail. Sur les loyers, est-ce qu'il faut un geste supplémentaire des bailleurs, un geste de l'État à ce niveau-là, des bailleurs, dites-nous.
Le problème, c'est que les bailleurs, ils sont très nombreux. Vous avez des individus pour qui c'est leur retraite, et puis vous avez des foncières qui ont plus de moyens financiers. Et donc, je crois que l'État travaille, ça n'a pas été annoncé encore, sur un crédit d'impôt qui permettrait de prendre en partie en charge le geste financier que feront les bailleurs. Mais il est indispensable pour tous les gens qui reçoivent du public et qui peuvent pas en recevoir. On a parlé des restaurants, des commerces, mais aussi les salles de sport. Enfin, il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés aujourd'hui, de prendre en charge une partie de ce loyer pour leur permettre de survivre.
Les assureurs, vous les représentez aussi au MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, et parmi les enseignements de la première vague...
On représente toutes les professions.
Bien sûr, beaucoup retiennent aussi la désertion des assureurs au printemps. Franchement, ils vont devoir faire un effort.
Alors, j'emploierai pas le mot désertion. Le problème, c'est que la pandémie, elle touche tout le monde et qu'un contrat d'assurance, il ne peut assurer que une partie. Quand il y a une catastrophe naturelle, heureusement, elle se produit dans une zone et pas dans toute la France. Là, je crois qu'ils se sont engagés, j'ai pas le chiffre exact, à remettre plusieurs milliards d'euros dans l'économie française, notamment à travers le fonds d'investissement que monte Bercy. C'est en discussion et je crois comprendre qu'ils vont faire des gestes supplémentaires.
12 à 15 milliards d'euros par mois, c'est le coût estimé de ce confinement. Moins, bien moins qu'au printemps, mais cette fois l'économie est déjà fragilisée. Ce matin, Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce que vous dites sur Europe 1 que nous sommes condamnés d'une certaine manière à voir des milliers de faillites, des faillites en cascade, des milliers de nouveaux chômeurs ?
Écoutez, on est condamnés à rien, mais le risque est très élevé. Vous avez évoqué la durée de ce confinement. C'est sûr, c'est que si on peut, non pas déconfiner complètement, mais reprendre une vie un peu plus normale à partir du 1er décembre, le scénario n'est pas le même que si ça dure au-delà de Noël. Donc, c'est difficile de faire une prévision. Ce qui est clair, c'est que le problème des établissements recevant du public, notamment des commerces, c'est qu'ils sont déjà très fragilisés. Ils sont fragilisés par Amazon. Et entre parenthèses, le grand vainqueur, malheureusement, hein, ça va être Amazon. Moi, j'ai rien contre Amazon, mais évidemment, ça représente pas tout le tissu commercial français. Ils sont fragilisés par toutes les manifestations qu'il y a eu, les mauvaises ventes qui ont été faites. Et donc, c'est déjà, si vous voulez, une maladie qui va s'abattre sur un corps malade, hein, si je prends une comparaison sanitaire. Donc oui, je suis inquiet, je suis très inquiet de ce qui peut se passer, parce que nous, on défend pas simplement du chiffre d'affaires à Noël, ou on défend des emplois derrière et des dégâts sanitaires importants. On ne peut pas mesurer cette courbe-là. On voit bien, hélas, la courbe des morts ou des réanimations dues au Covid, mais la courbe des dégâts sanitaires liés à la conséquence économique, la pauvreté, les risques psychosociaux, les risques psychiatriques, les suicides, tout ça existe et ça sera malheureusement dans les mois qui viennent.
Vous l'avez dit vous-même, c'est une guerre combattue par des civils. On le sait bien que les plus précaires, le président l'a rappelé hier soir, les plus précaires sont en première ligne face à la maladie, mais aussi face au confinement. Certains ne peuvent pas télétravailler. Comment rassurer à la fois les salariés des métiers essentiels, à la fois leur entourage? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de plus dans ce protocole sanitaire?
Il y a toujours mieux à faire. Hein. Ce que je constate, moi, c'est qu'on a une étude assez complète qui montre que 82% des salariés se sentent bien protégés dans l'entreprise. Le seul lieu où il peut y avoir des contaminations, c'est finalement quand on sort de l'entreprise elle-même, quand on va, par exemple, déjeuner. Et moi, j'en appelle évidemment aux chefs d'entreprise pour renforcer les mesures sanitaires le plus possible. Mais j'en appelle aussi à chacun d'entre nous. Hein. On a tous notre responsabilité en portant un masque, même quand on va déjeuner et quand on va faire une pause amicale, vous voyez, la pause cigarette, etc. etc. C'est là où tout se joue dans ce système de contamination.
L'économiste Patrick Artus, qui tente d'estimer le coût de ces mesures depuis le premier confinement, je vous passe les calculs, mais l'idée, c'est que chaque vie sauvée aurait coûté 6 millions d'euros. Alors, je sais que vous êtes sensible à la question de la dépense publique massive. Est-ce qu'on peut estimer à la fois le coût d'une vie, il y a un peu de cynisme dans cette question, ou même la rentabilité de ces mesures?
Écoutez, je ne sais pas si ce calcul d'abord est juste, je ne sais pas s'il faut le faire. Parce que évidemment, froidement, cyniquement, on peut avoir ce type de raisonnement, et puis quand c'est un proche, on raisonne très différemment. Donc, moi, je veux pas rentrer dans cette polémique qui consiste à dire opposer entre guillemets l'économie à la vie. Je comprends encore une fois hein, les mesures qui sont prises et l'émotion totalement légitime que suscite ce qui se passe à l'hôpital. Simplement, il faut arriver. Je pense que c'est possible à continuer à travailler parce que c'est ça qui crée la HS, c'est ça qui permet de sauver des vies indirectement, évidemment.
Mais si je vous posais la question, évidemment, vous n'allez pas me dire qu'une vie, ça vaut plus ou moins que 6 millions d'euros. Mais c'est la question de la dépense publique. Geoffroy Roux de Bézieux, la période que l'on vit là, elle impacte quoi? Les 5, 10, les 20 ans à venir?
J'ai peur que ça soit plutôt de l'ordre de 20 ans. Toute dette, elle est remboursable. Vous savez, le Japon est à 200% de dette sur le PIB depuis des années. Ce qui compte, au fond, c'est la capacité à créer de la richesse, à créer de la croissance pour la rembourser. Aujourd'hui, ce ne peut pas être la question du jour. La question, c'est comment on en sort, comment on sort de la pandémie. Mais ça sera la question de demain. La croissance potentielle de la France, de l'Europe d'ailleurs, pour rembourser toute cette dette accumulée. Pour le moment, on est dans le quoi qu'il en coûte. À la fois pour la santé, hein, les 6 millions d'euros que vous évoquez, et puis pour l'économie.
Geoffroy Roux de Bézieux, bon, j'ai un peu révélé votre vie privée ce matin. D'abord, votre passé dans l'armée. Vous êtes aussi catholique pratiquant. L'idée de ne pas passer Noël en famille, Geoffroy Roux de Bézieux?
Bon, je crois que ça va très au-delà des catholiques. La fête de Noël pour tous les Français, je crois, quelle que soit leur confession, c'est un moment... très fort. Alors, je sais pas ce que décidera le gouvernement. Et encore une fois, moi, je ne suis pas médecin ni scientifique. Et je crois d'ailleurs que les chiffres de contamination au 20 décembre, on a du mal à les prévoir aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudra laisser une parenthèse de quelques jours familiale, ne serait-ce que pour l'état psychologique de nos concitoyens.
Merci Geoffroy Roux de Bézieux.
Merci à vous.
Le président du MEDEF, en direct sur Europe 1 ce matin, au lendemain des annonces du président de la République, Geoffroy Roux de Bézieux, très inquiet de ce qui peut se passer pour les années à venir et qui nous révèle ce matin que l'État travaille sur un crédit d'impôt pour prendre en charge le geste éventuel des bailleurs sur les loyers. Nous allons en reparler, bien sûr, 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info, la météo à suivre, restez bien avec nous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez.
5 mois après le déconfinement, la France se confine à nouveau dès ce soir minuit avec des contraintes assouplies par rapport au printemps dernier. Les écoles, les collèges et les lycées vont rester ouverts avec un protocole renforcé et le port du masque obligatoire pour les enfants. Les usines, les chantiers et les exploitations agricoles continueront de tourner. Les visites seront autorisées dans les EHPAD et les parcs et les jardins accessibles à tous. Reconfiné, oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'au 1er décembre, au moins, prévient Emmanuel Macron. Selon les informations d'Europe 1, L'Élysée envisage de prolonger la mesure jusqu'à Noël, voire jusqu'à la fin janvier. On parie qu'elle ne vous avait pas manqué. Comme au printemps dernier, le reconfinement marque le retour des attestations de déplacement. Vous devrez les avoir en poche dès demain, sous peine de recevoir une amende de 135 euros. Avec toutefois une nouveauté, Guillaume Bier.
Oui, d'après nos informations, il y aura trois types de formulaires. L'attestation de déplacement dérogatoire, la même qu'au premier confinement, valable une heure. Pour des motifs bien précis, faire des courses, aller chez le médecin ou faire du sport, seul, maximum à 1 km de chez soi. Deuxième attestation, celle pour les déplacements professionnels avec justificatif de l'employeur. Et la nouveauté, donc un troisième formulaire pour les trajets scolaires valables dans la durée pour pouvoir accompagner ou récupérer ses enfants à l'école. Puisque les crèches, écoles primaires, collèges et lycées resteront ouverts, tout comme les services publics et les commerces indispensables, supermarchés, pharmacies, pressing, comme au printemps. Mais pour s'y rendre, donc, attestation obligatoire dès ce soir, minuit, sous peine d'amende, toujours 135 euros et bien plus en cas de récidive. Mais sur le terrain, les forces de l'ordre seront bienveillantes jusqu'au week-end prochain. Tolérance, a dit le président hier soir, puisque les vacances de la Toussaint ne sont pas terminées et qu'il y a encore ces jours-ci pas mal de déplacements familiaux.
Et justement, la SNCF a annoncé hier soir que tous les trains circuleront comme prévu jusqu'à dimanche pour faciliter les retours de vacances. Emmanuel Macron participera aujourd'hui à un conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union européenne. Autour de Jean Castex, donc, d'être en première ligne, le Premier ministre va se présenter devant les parlementaires pour soumettre au vote les dispositions prises par l'exécutif. Un Jean Castex un peu à contre-emploi. Avec les annonces d'hier soir, tout ce qu'il incarnait est balayé, Adrien Beck.
C'est le trait d'humour en vogue en Macronie. Monsieur déconfinement s'est transformé en monsieur reconfinement. Jean Castex, l'homme des jours heureux, promis par Emmanuel Macron, doit maintenant affronter la tempête sanitaire et incarner les mesures décidées par le chef de l'État. Nommé Castex, c'était une super idée, mais sans deuxième vague, résume un macroniste. Ces dernières semaines, ceux qui le côtoient décrivent un Premier ministre inquiet tant par l'évolution de l'épidémie que par le risque pénal que ses décisions lui font courir. Il a suivi attentivement l'audition d'Édouard Philippe devant les députés, glisse un interlocuteur, alors que certains, y compris au sein de l'exécutif, s'interrogent sur la préparation de la deuxième vague. Qu'a-t-il fait pendant l'été ? Rien, peste un conseiller. En août, en pleine torpeur, le Premier ministre avait pourtant appelé les Français à se ressaisir. Jean Castex, c'est enfin l'homme des territoires, des mesures sanitaires différenciées entre les départements. Avec ce confinement national, toute la France est maintenant logée à la même enseigne et le Premier ministre contraint de se réinventer.
Adrien Beck pour Europe 1. C'est à 18h30 ce soir que Jean Castex précisera les modalités d'application du reconfinement, dispositif restrictif qui sera réévalué tous les 15 jours.
Et simplement, d'un mot, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, ce matin confirme les informations qu'Europe 1 révélait dès 5h aujourd'hui. La sortie du couvre-feu uniquement début janvier, il l'évoque. Au 1er décembre, nous ne serons pas à 5000 contaminations par jour. Je peux vous le dire d'emblée aujourd'hui. Voilà ce que dit Jean-François Delfraissy ce matin. Il est 8h35 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et avec du soleil pour certains d'entre nous, toutes les régions du sud-ouest, tout le bassin méditerranéen, la Corse et les Alpes du Sud, ce sont les seules régions où le soleil sera là. Et puis nous avons, puisque l'anticyclone vient par le sud, nous avons donc les autres régions qui vont se dégager au fur et à mesure ou dégager leur univers, notamment sur la Bourgogne, la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin, où les éclaircies seront de courte durée. Sur Paris, il y aura quand même pas mal de nuages et on ne verra pas le soleil, je crois pas, comme sur le Berry, l'Auvergne et la Picardie. En revanche, nous aurons quelques pluies et d'ailleurs elles sont présentes sur le Nord, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté. Il y a même quelques pluies en ce moment du côté de Beauvais. Vous voyez que c'est tout près de la capitale. Les températures maximales entre 16 et 20 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous restez bien avec nous sur Europe 1 à suivre notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Il faut absolument que les malades non-Covid se soignent et suivent leur traitement pendant ce nouveau confinement. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37, il nous accompagne depuis tôt ce matin, le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé. Nous en avons longuement parlé pendant la première vague en mars. De nombreux Français ont renoncé à certains soins. Est-ce que vous
craignez la même chose cette fois-ci.
Oui, on se souvient, pendant cette période un peu exceptionnelle, les malades refusaient d'aller à l'hôpital, refusaient de suivre leur traitement, refusaient de se faire diagnostiquer. On a des indicateurs clairs qui montrent qu'on a renoncé aux soins. La vente de vaccins avait diminué, donc les enfants étaient moins vaccinés chez le pédiatre. On avait moins de diagnostics de nouveaux cancers. On a même eu une baisse des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux avec des gens qui malheureusement sont décédés au domicile. Alors, j'aimerais vous dire tout d'abord que cette période est particulière, mais que tous ensemble, nous allons y arriver. Il va falloir faire avec, c'est un marathon, on en a pour des semaines a priori, mais on va s'en sortir, on va voir le bout du tunnel et tôt ou tard, toute cette épidémie va se terminer. Mais en attendant, il faut limiter la casse car en mars, le temps était suspendu. Nous avons tous arrêté nos activités, il y avait moins d'accidents de la route, moins de pathologies, on a l'impression aiguë, mais là, la vie doit reprendre son cours et donc nous allons devoir vivre avec ce virus, cette incertitude, pour se soigner correctement jusqu'au bout.
Est-ce que vous avez des conseils pratiques? Alors Jimmy, on continue de consulter, c'est ça le message?
Exactement, alors il faut distinguer trois situations. La première, si jamais vous avez des pathologies chroniques, vous avez du diabète, de l'hypertension, je vous recommande de continuer de votre suivi, d'aller voir votre médecin généraliste, de ne pas annuler vos rendez-vous chez le spécialiste, quel qu'il soit, le cardiologue, le dermatologue, le gynécologue, même pour un simple frottis, ne retardez pas vos examens. En ce qui concerne les pathologies aiguës, on avait vu pendant cette période des gens rester au domicile avec des douleurs abdominales, des douleurs à la poitrine. Je vous recommande de ne pas faire ça et de consulter comme habituellement. Vous avez mal au ventre, s'il faut voir votre médecin traitant, allez le voir. Vous avez une douleur à la poitrine, peut-être que c'est un infarctus, dans ces cas-là, vous appelez le 15. Ne vous dites pas « je ne veux pas saturer le système de santé » car nous devons prendre soin de vous comme en période habituelle. Et puis la troisième, c'est l'incertitude. Vous savez, parfois vous voyez un bouton sur votre peau, vous voyez une petite boule, une tuméfaction, vous dites « tiens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je ne vais pas attendre, faire l'autruche ou est-ce que je vais consulter ?» Eh bien non, consultez, ne faites pas l'autruche. N'attendez pas que les symptômes évoluent car nous pouvons vous prendre en charge et nous allons tout faire pour vous prendre en charge jusqu'au bout. Il y a les malades Covid, certes, dont nous allons nous occuper, mais aussi le reste des Français qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est valable pour les enfants, pour les adultes et même les seniors. Il ne faut pas les abandonner, nous n'abandonnerons personne. Donc, au moindre symptôme, faites comme d'habitude, j'insiste, médecin traitant, le 15, vos spécialistes, nous serons là pour vous. Au début de l'épidémie, nous étions là et nous serons là jusqu'à la fin avec vous.
C'est important, ce message du médecin de famille, le médecin généraliste, le docteur Jimmy Mohamed, ce matin. On continue de consulter et puis on se déplace, on y va avec un masque et du gel hydroalcoolique. C'est aussi simple. 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Fanny, vous me recevez? Bonjour Fanny.
Non.
Bon, on n'a pas Fanny Agostini, c'est pas grave, une petite coupure avec la liaison de la Haute-Loire, Boissey. Vous me recevez Fanny, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Emmanuel Macron a annoncé hier un reconfinement, ce qui risque, vous nous dites, de redoper les achats en ligne.
Eh bien tout simplement parce que ça fait du bien au moral. C'est ce qui a été marquant lors du dernier confinement. Les ventes en ligne ont explosé concernant les biens de première nécessité, mais aussi un peu, beaucoup, il faut le dire, sur le superflu. Les vêtements, les cosmétiques et gadgets électroniques ont eu un grand succès puisque cloîtré chez soi, cela tient occupé de passer commande, d'autant plus que l'attente du colis nous met dans un état euphorisant qui rend complètement addict et qui a un nom, ça s'appelle l'oniomanie. Acheter de façon compulsive ce dont on n'a pas vraiment besoin. En France, la part de la population touchée avoisine tout de même les 16% en temps normal, un pourcentage qui a eu tendance à prendre quelques points lorsque nous étions en mode confiné au printemps dernier, selon l'Institut fédératif des addictions comportementales.
Lors du précédent confinement, c'était effectivement le printemps. Il y a un autre facteur aggravant cette fois, c'est que nous allons vers un temps plus maussade, vers l'hiver.
Le ciel gris à nos fenêtres, il pleut, il fait froid, cela pourrait aussi avoir une incidence sur nos comportements d'achat en ligne. Les e-commerce seraient en effet météo-sensibles et pour en avoir le cœur net, le site Price Minister a réalisé une étude comparée sur l'évolution des ventes quotidiennes en fonction de la météo. Et ce qu'il en ressort, c'est que les ventes en volume sont bien supérieures lorsqu'il pleut et que les personnes sont contraintes de rester au chaud chez elles. Il y a donc ce double effet ce coup-ci, la contrainte du confinement combiné à la baisse de lumière. Cela risque de nous faire plonger dans une dépression saisonnière aiguë que le consumérisme viendra en partie soigner.
Alors que nous pourrions nous faire plaisir autrement ?
Eh bien, je vous propose une addiction libératrice dans le sens où celle-là, elle est capable de sécréter de la dopamine dans notre cerveau de la même façon que lorsque l'on achète des trucs sans raison. Je veux parler du désencombrement qui pourrait rimer avec confinement. Cela peut être une autre façon de mieux vivre cette période que de faire le tri dans ses affaires et virer le superflu pour les revendre, pourquoi pas en ligne, ou offrir ce dont nous n'avons plus besoin ou n'utilisons plus à des associations, surtout à l'approche de Noël. Certains seront sûrement heureux d'en profiter à la la fin de l'année. Autre chose, si Netflix redevient votre meilleur ami ces prochaines semaines, sachez aussi qu'il existe un excellent documentaire que je vous recommande, Minimalism. Minimalisme en français, c'est l'histoire de deux jeunes Américains qui ont fait le pari de vivre plus intensément en se délestant de la pesanteur matérielle.
Merci Fanny Agostini, notre planète, tous les matins sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. On vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, avec plaisir pour le principal titre de l'actu.
Eh oui, bonjour, rebonjour ma chère Julie. Bienvenue à tous dans un jour sans fin. C'est le président de la République qui l'a dit. On est dans un jour sans fin. Eh oui, un jour sans fin. Un jour sans fin. En principe, il y a la musique qui part, mais voilà.
Ah oui, c'est vrai.
C'est la musique du film, ça, oui.
Et voilà, I've got you, baby. Et voilà. Évidemment, il faut avoir vu le film. Hein.
Ah bah oui, ça, oui.
Sinon, c'est moins drôle. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le film?
Moi.
Peut-être, oui. Bonjour quand même. C'est Mathieu Béliard. Pardon, je ne me suis pas représenté. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, écoute le monde fermé. Eh oui. Eh oui, ce matin, on va fermer la boutique. Allez, on ferme. On ferme la boutique. Allez. On se croirait dans les déchets, vous vous souvenez de ces génériques?
Oui,
on ferme.
Oui, c'est vrai.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, Julie? C'est le reconfinement. Donc, ben, je vais retourner, vous le savez, vous l'avez compris, dans mon garage pour un mois sans pouvoir, et c'est l'effet collatéral majeur, sans pouvoir aller chez le coiffeur.
Ça, vous voyez, ça c'est vrai. Sinon, je suis là.
Alors que même déconfiné, vous voyez qu'au niveau capillaire, j'ai pas tout à fait résolu le problème. Je vous laisse imaginer ce que ça va être dans un mois.
Oh là 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 là.
Il n'y a pas que dégâts collatéraux avec Mathieu, parce que moi c'est pareil, j'entre chez moi. Hein, la météo, tout le monde va s'en foutre de toute façon. Pour le mois prochain, pour tout le mois prochain, puisque plus personne va aller dehors, donc personne ne m'écoute, parce que j'ai entendu les scientifiques dire qu'ils ont été surpris par le froid et la météo.
Et c'est vrai. On a entendu certains épidémiologistes, oula, dire qu'ils... Je ne leur fais pas. Hein.
Dès qu'il y a plus de 4 syllabes, j'ai...
Donc on les a entendus dire qu'ils étaient surpris par la virulence de l'épidémie parce qu'ils n'avaient pas anticipé le froid.
Hein. Voilà, ils n'avaient pas anticipé le froid. Voilà, donc moi, chers auditeurs, il faut que je me confie à vous. Hein. Ça fait 40 ans que je m'emmerde à dire qu'il fait froid en hiver. Et aujourd'hui, je découvre que... Même c'est pas très drôle d'avoir une souris parce qu'il y a une belle équipe ici. Mais je découvre que personne ne m'écoute. En fait.
Oh là là.
Oui.
Oh.
Finalement, je crois que ma vie n'a servi à rien, finalement. Je suis inutile, voilà. Mon boulot, c'est une espèce... Je suis une espèce de fond sonore à la radio. Mon boulot est aussi pourri que la météo. Les gens découvrent qu'il fait froid en hiver, donc on marche sur la tête. Je me demande ce que... J'ai passé toute ma jeunesse à faire ça. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma jeunesse? J'aurais dû aller en Californie à draguer des surfeuses au lieu de me prendre le chou à étudier les cumulonimbus.
Léo, les cœurs, Laurent. Et merci Mathieu. Emmanuel Macron a donc annoncé un reconfinement. On l'accueille tout de suite. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, hélas, vous l'avez compris, nous devons reconfiner. Écoutez, non, ne faites pas cette tête d'enterrement. Je sais que vous êtes ravis au fond de vous-même. Chers auditeurs qui nous entendez dans ce pays, bosser, vous détestez ça. Hein, donc, dès qu'il y a une occasion de rester chez soi, vous la prenez. Vous êtes gâtés, finalement.
Pas vraiment, non. Alors, vous avez déclaré « Le virus circule à une vitesse que même les prévisionnistes les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. »
Mais tout à fait. Cette deuxième vague, personne n'aurait pu la prévoir. On en parle depuis avril, mais personne n'aurait pu la prévoir. Les plus pessimistes ne l'avaient même pas anticipé. Si j'avais été pessimiste, je me serais fait avoir quand même, voyez. Et j'aurais bossé pour rien. Heureusement que j'ai été optimiste et que j'ai rien prévu du tout. Oui, là, on ne sait pas si c'est drôle ou pas. Ça flotte dans l'équipe.
Vas-y, là, donc du coup, ça ne changera rien. Et puis, dans 15 jours, il y aura une évaluation de ce confinement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça.
Voilà, bon, après, quoi. Attendez, cher Julie Leclerc, on se connaît suffisamment, je ne vais pas vous flinguer le suspense. Mais bon, ne vous faites pas trop d'illusions non plus, ne sortez pas le champagne tout de suite. Hein.
Mais vous avez parlé de 400 000 morts potentiels, d'où vous sortez ce chiffre?
D'où je sors ce chiffre? Je sors du conseil scientifique, on peut lui faire confiance, jusqu'à présent c'est du solide. Hein. Notre association avec le conseil scientifique fonctionne très très bien, fonctionne bien.
Et oui. Puis vous avez parlé du retour de l'attestation, la fameuse attestation de sortie.
Voilà, comme au printemps, le retour de l'attestation. En fait, quelque part, je fais revenir le printemps chez vous. Hein, on se retrouve comme en mars, on oublie l'hiver, on est comme en mars. Vous allez retrouver toutes vos sensations de l'époque du printemps, vous faire votre jogging à 19h dans les rues vides, regarder tous les chanteurs has-been faire des concerts en slibard chez eux. Vous allez retrouver toutes ces sensations sympas. Vous allez applaudir les soignants à 20h à vos fenêtres.
Ah, oui.
Alors, la petite différence, c'est qu'on n'est pas vraiment au printemps, donc vous avez chopé une pneumonie en plus. Mais heureusement, vous avez découvert le grand Jimmy Mohamed, et ça c'est une...
Alors vous estimez ce reconfinement indispensable, mais tous vos alliés ne partagent pas cet avis. François Bayrou, par exemple, il s'est déclaré hostile à un reconfinement général.
Oui, non, mais François Bayrou, oui, non, mais lui, je lui ai demandé de travailler pour la France de dans 30 ans, donc je propose qu'on l'écoute légitimement dans 30 ans. Voilà.
Oui, bah c'est ça, on va faire comme ça. Et ce confinement devrait être moins dur que le premier, avec un peu plus de tolérance. Les policiers ont reçu des consignes pour être souples.
Alors, pour les policiers, écoutez, là, le mieux, je ne peux pas tout faire. Donc, lui, je pense que le mieux, c'est de demander au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
D'accord.
Okay. Gérald, appelez-moi Gérald. Oui, Gérald, tu peux venir voir une seconde, s'il te plaît. Non, pose les chaussures. Non, pose le cirage, tu finiras mes chaussures après. Bien, on a une question sur les policiers pour toi.
Oui, bonjour Madame Claire. Écoutez, bien sûr, soyez-en sûr, ce confinement sera géré avec la plus grande intelligence. La plus grande intelligence, bien sûr, sous l'impulsion du président de la République. Mais vous savez, les Français adorent se plaindre. Tenez, cette semaine, je constate que de nombreux musulmans ont râlé, se sont plaints pour rien. Par exemple, ça ne servait à rien de râler, de se plaindre sur la fermeture de la mosquée de Pantin, puisque cette fermeture de la mosquée de Pantin, de toute façon, est effective aujourd'hui, puisqu'elle ne peut plus ouvrir. Donc, du gouvernement sous l'impulsion du président de la République.
Bon, ben, merci à tous les deux. Merci, Monsieur le Président. Et courage. Hein. Ce reconfinement, on le sait...
Quoi ? C'était un peu dans le vide, votre courage. Mais je le prends.
C'était pas bien, courage ?
Si, c'était très bien. Surtout que Catherine Ney a dit que j'avais un teint palichon ce matin, donc hier soir.
D'accord.
J'ai été mal sapé. Elle m'a réhabillé pour la semaine.
Allez, on enchaîne. Ce reconfinement, on le sentait un petit peu venir. La situation se tendait dans les hôpitaux, même si certains scientifiques assuraient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague.
Vous vois venir, faites attention à ce que vous dites, madame Julehi. Hein, vous apprêtez tout de même pas à critiquer Saint-Didier Raoult, tout de même. Hein, vous voulez être interdite de séjour à Marseille ou quoi ?
Non mais monsieur Godin, il avait affirmé qu'il n'y aurait pas de deuxième vague quand même.
Oui, peut-être qu'il avait affirmé ça, mais Saint-Didier Raoult, mais le virus, que voulez-vous, a muté. Voilà, il a changé. D'abord, ce n'est pas une deuxième vague, c'est un premier tsunami. Voilà. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas en vouloir à Saint-Didier Raoult d'avoir voulu être précis. Écoutez-le. Écoutez-le. Hein, au lieu de le caricaturer de façon facile, infâme de peu de foi.
Oh, ça va, hein. Monsieur Godin, moi, je ne veux pas caricaturer, mais quand même, il s'est beaucoup trompé, Didier Raoult. Hein. Le virus était censé être devenu moins virulent. La chloroquine devait être un remède efficace. Il n'y aurait pas de deuxième vague.
Bon, je vous dis que vous caricaturez, là. Vous êtes en train, madame Julehi, de caricaturer le prophète Saint-Didier.
Oh là là, stop.
Attention, je vais vous boycotter les Parisiens, hein, comme les Turcs. À Marseille, on ne va plus vendre, par exemple, les produits qui viennent de... Voilà, tous les produits qui viennent de Paris. Décrète un embargo sur les champignons, les macarons et les hipsters à moustache qui font de la trottinette. Voilà. Gardez vos spécialités parisiennes. Nous, on n'en veut pas. Saint-Didier, si tu es branché sur Europe 1, n'écoute pas ces hérétiques.
Oh, mais calmez-vous, monsieur Godin. C'est bon, hein. Allez, on va parler d'autre chose. Hein. Éric Ciotti est soupçonné de détournement de fonds publics et de trafic d'influence par l'association Anticor. Le parquet de Nice a ouvert une enquête. Bonjour Éric Ciotti.
Oui, bonjour Mme Julie, M. Béillard, M. Cabron, M. Mohamed. Écoutez, sur cette enquête, sur cette enquête, soyons clairs, le gouvernement ne fait rien.
Il y a longtemps.
Non, il ne fait rien qu'à me casser les noyaux. Hein, c'est totalement scandaleux.
Mais ce n'est pas le gouvernement, là, c'est la justice.
Mais vous êtes naïve, hein, pauvre petit enfant. Non, le parquet. C'est quoi? Pas le gouvernement, c'est la justice. Mais le parquet de Nice ouvre une enquête. Le parquet de Nice, à Nice, rien ne se décide, vous devriez le savoir, sans Christian Estrosi. Ah, et Christian Estrosi mange dans la main du gouvernement. On veut me faire taire parce que ma voix est concomitante. Voilà.
Alors, sur le fond, Anticor vous soupçonne d'avoir fait payer au Conseil départemental des Alpes-Maritimes des frais personnels, alors que vous n'en étiez plus membre. Par exemple, des frais induits par votre vidéo de vœux de Noël.
Vœux de Noël, non mais pardon, mais donc c'est pour une vidéo de Noël qu'on vient me chercher des poux dans la tête. Alors franchement, alors déjà, mettons les choses au point, je n'ai pas de poux dans la tête. Voilà. Parce que non, ce n'est pas le genre de la maison, hein, oui parce qu'il faut être équipé à la base, moi je me coiffe avec une éponge, mais ce n'est pas le sujet.
Non, attendez.
Revenons à l'essentiel, pas d'attaque physique, même, c'est tellement facile. Qu'est-ce qui se passe?
On a fait tomber une chaise.
Oui, bon, ce n'est que le début hein, de la descente d'Europe 1.
N'en profitez pas, stop, allez. Monsieur Ciotti.
Où se casse la gueule. Non, ça remonte.
C'était un plexiglas. Pour
vous dire. C'est un plexiglas, je ne voyais pas d'ici. Voilà. Alors, foutu monsieur Ciotti, on vous écoute.
Je peux vous faire venir Carglass, si vous voulez. Alors, c'est quoi votre question là?
Ben, parce que... on voudrait aller à l'essentiel avec vous, hein. C'est en
oui,
mais ben
écoutez,
3,
non. Alors, je voudrais. Non, parce que j'ai voulu être aimable, moi, franchement. Vous croyez que c'est pour mon plaisir personnel que j'ai passé 3 heures de tournage à chanter Jingle Bells déguisé en lutin? Non, voilà. Non, c'était pour être sympa, voilà. Et on m'attaque pour ça, lâchement, bassement. Mais j'ai compris le message. Je ne le referai plus. Voilà, puisque c'est comme ça, eh ben, je vous souhaite un Noël de merde. Oh, voilà. Un bon Noël, bien pourri. Oh, de toute façon, j'ai même pas besoin de vous le souhaiter, vu la situation sanitaire. Vous l'aurez, le Noël foireux. Hein, c'est bien fait et c'est totalement concomitant.
Et voilà, le mot de la fin, concomitant.
Merci beaucoup, Nicolas Canteloup et Julie. Bravo à Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. Vous retrouvez la revue de presse, que vous le savez, sur europe1.fr. 57. Philippe Bandel est avec nous, Culture Média, la matinée continue.
Bonjour.
Quel est le programme,
Mathieu,
je le connais. Donc,
invité exceptionnel ce matin, puisque le président François Hollande sera avec nous. Il vient de parler de son dernier livre, c'est un album illustré qui explique le fonctionnement de l'État aux jeunes et aux moins jeunes. Évidemment, il parle de l'État, il parle du système de santé, il parle de laïcité. Et ça sera sa première intervention après l'allocution hier soir du président Emmanuel Macron.
Vous lui parlerez de ses audiences, j'imagine ?
Ben évidemment.
J'attends Culture Média, moi, pour savoir.
Moi, j'attends toujours Culture Média. Notre info média du jour sont les médecins rassuristes. Vous savez ce que c'est, les rassuristes ?
Oui.
C'est les gens qui vous disaient « mais non, c'est rien, c'est une grippette ». Très demandé, voire trop, par les chaînes d'infos. Est-ce qu'il faut encore les inviter? Et sinon, comment faire sans eux? Réponse avec Margot Trouville de BFM TV et Bastien Morassi de LCI. Et puis enfin, un palmarès contesté encore plus cette année, celui des hôpitaux et cliniques de France. C'est Le Point qui le publie. Ça n'a pas été simple compte tenu de la crise sanitaire. On sera avec le patron du journal et l'un des journalistes en charge du classement. Ils vont nous expliquer tout ça.
Merci beaucoup Philippe Vandel. Culture Média, la matinée continue de 9h à 11h. Je vous souhaite une belle journée à présent. Je reviens moi demain matin, évidemment, en direct à partir de 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.